est censé commencer à quelle heure?
On est censé commencer.
Okay. Qui c'est, Patrick? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Pas bien, hein? Il faut que je parle très fort dans le micro, ça va mieux là? Pas terrible. Alors, on va essayer de régler le son. Est-ce que... il faut juste que ce soit un peu plus fort. Est-ce que ça marche, hein? C'est mieux? Est-ce que Philippe, tu peux... oui, mais je... voilà, comme ça va mieux? Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, donc j'invite les dernières personnes qui ne sont pas encore assises à nous rejoindre. Merci d'être venus ce matin, donc pour ce 12e forum de la non-violence à l'école. Donc je me présente, Christian Renoux, je suis le président de la coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix, et j'ai la joie et le plaisir donc d'ouvrir ce matin le 12e forum déjà. Alors le thème de cette année, comme vous l'avez sur vos documents, sur le programme, donc c'est « Je déclare la paix, pourquoi, comment ?» Alors vous savez tous que cette année a été aussi l'année du centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Nous en avons entendu parler dans tous les sens. De temps en temps, pour parler de la paix et pour reprendre le titre de la série de films autour de Plantu qui a eu lieu au Forum des images à Paris, « Quelle connerie la guerre ?» On en entend un peu tendu dans ce sens-là, mais on a aussi beaucoup entendu de choses qui, d'une certaine façon, justifiaient la guerre. Donc il nous paraissait important, au milieu de ce temps de célébration que nous avions vu venir, puisque la coordination a aussi participé au milieu d'une grande coalition d'organisations européennes à ce qu'on appelait un peace event à Sarajevo en juin cette année, en juin 2014. Nous étions 2000 Européens réunis à Sarajevo pour rappeler que le siècle qui vient de se passer n'était pas simplement un siècle de guerre, mais aussi avait été un siècle où il y avait eu de nombreux engagements pour la paix et pour la non-violence. Vous savez que l'horreur de la guerre 14-18 a entraîné la naissance de nombreux mouvements pacifistes qui se sont engagés ensuite à développer une autre culture, une culture de non-violence et de paix, pour contrebalancer cette culture de violence qui est malheureusement encore aujourd'hui dominante dans beaucoup de parties dans le monde, et y compris dans notre société. Donc voilà, au cœur de cette actualité, on a choisi avec... l'équipe qui organise les forums et aussi la quinzaine, de prendre ce thème cette année. Alors je laisserai Anne Ferraud et Annie Guiloni nous en dire un peu plus, faire le lien entre justement ce qui s'est fait pendant la quinzaine de la non-violence et de la paix entre le mois de septembre et le mois d'octobre, entre la journée internationale de la paix et la journée internationale de la non-violence. Vous précisez un peu tout ça. Alors aujourd'hui, le thème... va être décliné, parce qu'en fait l'idée c'est d'utiliser ce thème sur plusieurs années, donc on va peut-être jusqu'en 2018 si nous avons assez de nourriture pour le faire, mais j'en doute pas. Cette année le thème est plus décliné sur donc je déclare la paix, et on verra tout à l'heure dans la table ronde avec nos intervenants que je remercie d'avance d'être parmi nous, donc une réflexion sur quels sont les points d'appui pour créer un climat de paix dans un groupe, qui va être une étape dans cette réflexion que nous allons continuer à mener. Alors peut-être juste aussi vous donner quelques nouvelles de la progression de notre travail en tant que coordination, puisque, comme vous le savez, la coordination est engagée maintenant depuis bientôt 15 ans pour promouvoir une éducation à la non-violence et à la paix dans les écoles. Nous avons ces dernières années eu une actualité bien chargée, avec beaucoup de bonnes nouvelles. Donc l'an dernier, c'était le vote de la loi Peillon, comme vous le savez, avec l'introduction dans la formation des enseignants et des personnels d'éducation dans le cadre des ESPE à une formation à la résolution non-violente des conflits. Et depuis le vote de cette loi, la coordination avec d'autres organisations a travaillé avec la délégation ministérielle à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire, à trouver les moyens de faire passer concrètement cette décision dans les faits. Comment créer une formation pour ces enseignants dans les ESPE aujourd'hui? C'est pas un enjeu facile, parce que c'est nouveau, et en même temps, les structures, elles, sont anciennes et avec des habitudes de fonctionnement bien présentes, bien enracinées. Donc on a fait un travail avec la délégation pendant un an de réflexion pour construire en fait un texte dont le but était de présenter la façon dont les associations que nous sommes, spécialisées dans cette formation et cette éducation à la violence et à la paix, comment nous imaginions que pouvait être cette formation des enseignants. Alors, nous avons fait un travail coopératif, collectif, avec 33 associations de tous horizons, dont un bon nombre membres de la coordination, par ailleurs. Et nous avons collectivement donc rédigé un texte qui donc s'appelle « Formation des enseignants et des personnels d'éducation à la prévention des violences et à la résolution non-violente des conflits ». Texte que vous connaissez, on vous l'a fait circuler, il est sur le site de la coordination, il est téléchargeable. Il est aussi, et c'est important pour nous, ce texte a aussi été validé par le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez le petit logo du ministère en bas. Il a été validé par le ministère, par le directeur de la DGESCO, donc le responsable de toute l'administration scolaire du ministère, au printemps dernier, donc en avril dernier. Et c'est une étape importante, puisque pour la première fois, l'éducation à l'ambiance et à la paix fait maintenant partie, on peut dire, des textes de l'éducation nationale. Il est, entre autres, sur le site Climat scolaire de l'éducation nationale. Et donc là, il y a une reconnaissance importante pour nous, et nous nous en félicitons. L'étape actuelle, puisque ce texte, lui aussi, doit s'enraciner dans la vie quotidienne des ESPE. Alors juste, il est construit en trois parties, vous l'avez déjà vu, mais il y a une partie importante. La première, c'est l'éducation à la non-violence. On a expliqué ce qui était pour nous l'éducation à la non-violence. Ensuite, on a vu comment on pouvait mettre cette éducation en place dans les établissements. Et puis, en troisième chapitre, comment on allait former les enseignants pour ça. Et donc, aujourd'hui, le travail que nous menons avec le ministère, à travers la délégation ministérielle et le collectif des associations, c'est de préparer une rencontre au printemps prochain entre ce qu'on appelle les décideurs, les prescripteurs de formation à l'éducation nationale et les associations, de façon à entrer dans un dialogue pour pouvoir présenter directement, à travers des tables rondes, à travers des carrefours, les différents aspects de cette éducation telle que nous la concevons. Donc ça sera une étape importante au printemps prochain pour avancer dans ce dialogue avec l'éducation nationale qui ne fait que commencer puisqu'il y a là une tâche importante et qui va pas se faire du jour au lendemain. Et par ailleurs, la coordination elle-même réfléchit à la façon dont, en tant que coordination, avec ses associations membres, on pourrait répondre d'une façon ou d'une autre à cette demande de formation dans les ESPE directement en tant que coordination. Voilà. Donc c'est les choses dont on vous tiendra au courant. Donc le forum d'aujourd'hui s'inscrit dans tout ce travail, c'est une des étapes de ce travail. Je ne vais pas être plus long et donner la parole à Anne et Annie, que je remercie pour tout ce travail qu'elles mènent tout au long de l'année pour préparer, animer et puis faire vivre donc à la fois la quinzaine et le forum, et aussi les journées d'été auxquelles un certain nombre d'entre vous ont déjà participé, les journées d'été qui auront lieu donc l'année prochaine au mois d'août. Donc nous retournons dans la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto à l'abbaye Saint-Antoine, et aussi faire le lien avec la lettre, puisque Annie va nous en parler. La lettre de la coordination a aussi pour thème, comme vous avez pu le voir, ce thème de déclarer la paix, et qui est aussi, on essaye d'avoir une unité dans notre travail toute l'année. Donc un grand merci à toute l'équipe qui travaille toute l'année pour ça, et puis encore merci aux intervenants que nous allons écouter tout à l'heure. Donc je donne maintenant la parole à Anne, et je vous souhaite une bonne journée ce matin et cet après-midi dans les ateliers. Merci.
Bon, on voulait se rapprocher un petit peu de vous. On trouvait qu'il était un peu loin. Voilà. Pas trop. Je ne veux pas venir sur tes genoux. Bon. D'abord, bienvenue à vous dans la 12e édition. Eh ouais, 12 ans. 12e édition du forum. Donc, bienvenue à chacun de vous. Il y en a qui arrivent encore. Donc, installez-vous tranquillement. Donc, c'est en tant que responsable de la commission Quinzaine Forum que je vous parle ici, mais je vais surtout après laisser la place à Annie pour vous raconter un tas de choses. Donc, la coordination, Christian l'a un petit peu dit, c'est notre objectif, c'est de promouvoir l'éducation et la formation pour développer une culture de non-violence et de paix. Bon, je ne vais pas le redire. Et depuis 2009, on essaye d'animer sur l'ensemble de tout notre réseau, on essaye d'animer une quinzaine de la non-violence et de la paix. Et chaque année, elle prend un peu une forme différente. Cette année, vous avez vu, on vous a déjà un petit peu fait les propositions. La toute première année, en 2009, on avait proposé à chacun d'interpeller son député sur la question de l'éducation à la non-violence et à la paix. Et on a eu quelques retours intéressants et des soutiens de nombreux députés. Et puis à partir de 2010, en fait, ça a pris une forme un peu différente, où on interpellait davantage les établissements, le milieu scolaire, périscolaire, extrascolaire, et même maisons d'enfants à caractère social, etc. Et on interpellait pour qu'ils transmettent aux enfants toute cette éducation à la non-violence et à la paix. Et en 2010, on a proposé aux adultes de réaliser avec leurs élèves, avec leurs groupes d'enfants, des grues en papier, en pliage, en hommage à Sadako, cette petite fille japonaise qui avait été irradiée par Hiroshima. Voilà, donc toute une culture autour du pliage de papier. Hein. Et donc on a envoyé au mémorial d'Hiroshima des milliers, des cartons entiers de grues venues de tous les quatre coins de France, magnifiques. En 2011, on s'est mis plus en lien avec le centre en hommage à Anne Frank à Amsterdam, avec la maison Anne Frank, et on a envoyé des fleurs, donc faites par tous les établissements. Des cartons entiers, là aussi, des cartons de fleurs. Et la symbolique, c'était de fleurir le marronnier d'Anne Frank. Et à chaque fois, vous voyez bien qu'on a quelque chose à faire manuellement et en même temps, toute une sensibilisation sur une thématique. Hein. En 2012, c'était l'année internationale Janusz Korczak, et du coup, on a fait réaliser par les établissements des cahiers de doléances à la manière de Janusz Korczak, qu'on a envoyé ensuite. Tous ces cahiers ont été envoyés en Pologne. En 2013, on a travaillé toute l'année, journée d'été, quinzaine, forum. On a travaillé sur le théâtre forum, et du coup, on a fait un peu un pack avec ces trois manifestations et qui étaient sur la thématique du théâtre forum. On avait une table ronde avec des personnes spécialistes du théâtre forum, des ateliers l'après-midi, pareil, voilà. Et on demandait aux établissements d'envoyer des films ou des photos sur ce qu'ils avaient fait autour du théâtre forum. Voilà. Donc cette année, comme l'a dit Christian, un peu en lien avec toutes ces commémorations, en lien et aussi un peu en réplique, j'allais dire, hein, je déclare la paix, et un peu en contre-pied, oui, tout à fait. Et du coup, on propose ça, et on voudrait que ça puisse durer pendant 5 ans, à chaque fois avec un angle d'attaque ou un angle de vue différent. Et cette année, donc, je laisse la parole à Annie pour vous donner tous les détails.
Voilà, oui, on a donc décidé d'être en contre-pied des commémorations, en permettant de penser la paix autrement que comme l'absence de conflit et de guerre. Et donc, la première étape, c'était pour nous déclarer la paix. Et déclarer la paix, eh bien, rien de mieux que de faire un vœu de paix. Mais pas n'importe quel vœu de paix, c'était faire un vœu de paix que chacun de nous pouvait réaliser en vrai. D'ailleurs, je suis fâchée avec un camarade, avec un adulte, je vais décider de faire la paix avec lui et je vais accrocher ce vœu dans un arbre de vie, dans un arbre de paix. Et je vais le mettre en œuvre. De nombreuses écoles ont participé, de nombreux enfants ont participé, et je trouve très, très beau les retours que nous avons eus, parce que y a des enfants d'un ITEP, par exemple, qui ont participé, et alors leur vœu le plus cher, c'est de faire la paix avec eux-mêmes. J'ai aimé lire tous les retours par rapport à cela, tous les vœux qu'ils avaient choisis. Dans mon petit village, il y a une enfant qui a dit « Moi, j'ai choisi de faire la paix avec mon grand frère. » Parce qu'on se bat tout le temps. Et eh bien, elle a réussi. Elle a fait la paix avec son grand frère. Maintenant, alors j'ai dit « Comment t'as fait ?» Parce que d'un seul coup, je lui ai dit que j'avais accroché ce vœu de paix. Et eh bien, on a décidé que maintenant, au lieu de nous battre et de nous taper dessus et de nous disputer, eh bien, on va parler ensemble. Et pour le moment, ça marche. Je ne sais pas combien de temps, mais ça marche. Alors, partout, il nous faut les retours de cela pour pouvoir construire les autres années, parce que y a des enfants qui nous disent, ouais, c'est pas facile de faire la paix. Oui, j'ai décidé de faire la paix avec le copain, la copine, mais ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Donc, ça va être de donner les outils, les autres années, de donner les outils pour réussir à faire la paix, changer de regard. Changer de regard, c'est notre objectif un petit peu de cette année, qui sera peut-être aussi celui de l'année prochaine, ce sera à vous de nous le dire. La quinzaine, on se dit, c'est pas fini. Elle a été lancée, oui, le 21 septembre, Journée internationale de la paix, le 2 octobre, Journée internationale de la non-violence, mais on a de nouveau encore des demandes. Est-ce qu'on peut encore la mettre en place? Eh bien, on dit oui, parce que le 1er janvier, ça va être les vœux. Et pourquoi ne pas faire un vrai vœu de paix? Pourquoi ne pas faire la paix avec quelqu'un? Donc, c'est aussi le moment de la remettre en place. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vivre un moment de table ronde avec nos invités, des témoignages de ce qui se vit ici ou là. Cet après-midi, vous allez vivre des ateliers. Eh bien, si vous avez envie de lancer à la suite de cela votre quinzaine de la paix et de la non-violence quand vous allez rentrer, faites-le et nous serons très heureux d'en avoir les retours. Voilà.
Et du coup, vous avez vu qu'il y a une petite exposition là-bas sur les premiers retours qu'on a pu avoir. Et on se propose à notre Assemblée Générale de faire une deuxième série d'expositions avec les retours qu'on aura pu avoir à partir de ce que vous, ici, vous aurez mis en place chacun sur vos lieux, mais aussi de ceux qui auront continué et poursuivi au fil de l'année, parce que c'est évidemment quelque chose qu'on peut poursuivre toute l'année scolaire. Voilà.
Et pour cela, si vous voulez tout de suite des renseignements, vous trouverez sur la table de presse le livret pédagogique de cette quinzaine que vous pouvez feuilleter et vous le retrouverez bien sûr sur le site. Hein, voilà. Voilà.
Merci à vous. Je donne la parole à Yvette.
Merci. Donc bonjour à tous. Je suis donc Yvette Bailly, je fais partie du MAN Lyon, Mouvement pour une alternative non violente, et j'ai été pendant longtemps au conseil d'administration donc de la coordination. Donc je suis toujours très contente de revenir voir un petit peu tout le monde et aussi constater comme le travail avance. Et voilà, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc on m'a demandé d'être modératrice donc de la matinée. Donc je vais vous présenter un petit peu comment ça va se dérouler. Donc on va démarrer par une table ronde. Donc le thème général, je reprends mes lunettes. Donc ça va être quels sont les points d'appui pour créer un climat de paix dans un groupe. Donc on aura donc 12 minutes d'intervention de chaque intervenant. Donc on entendra d'abord Vincent Roussel, qui est donc parrain de la coordination et président donc de Non-Violence Actualité, qui va nous faire une intervention sur une vision un petit peu généraliste, l'axe fort du plan académique et le climat scolaire. Donc quelque chose assez institutionnelle pour nous expliquer un petit peu le contexte aujourd'hui et les évolutions. Ensuite, donc, c'est Sophie Rougevin-Baville, qui est donc médiatrice à l'association de la coordination, l'association de la communication non violente, qui interviendra sur le thème accueillir l'enfant dans l'élève tout en créant la cohésion de groupe. Ensuite, donc, c'est Edith Tartar-Godet, qui est donc psychosociologue et psychologue clinicienne, qui, elle, interviendra sur le thème « Comment des ateliers de parole peuvent apaiser les rapports avec soi-même et avec les autres, y compris les enseignants ?» Puis nous terminerons par un duo avec donc Marie-Christine Loiseau et Anne Ferraud, qui sont donc de l'association Génération Médiateur, et qui interviendront sur le thème « Cohésion scolaire périsco, formation systémique, médiateur, point d'appui ». Donc voilà, donc ça nous amènera à peu près à 11h30. Donc moi je vais essayer de gérer le temps. Donc elles savent que ils savent que chacun a 12 à 15 minutes. Ensuite, on aura un temps plus de témoignages. Donc je donnerai la parole à les personnes là qui vont témoigner. Peut-être que je vous présenterai à ce moment, ça coupera un petit peu. Voilà. Alors donc on vous propose de pas faire de pause. Voilà, d'aller donc jusqu'à midi et demi. Et donc pour les questions et le débat, donc préparez. Donc il y aura deux personnes qui vont tourner dans la salle et qui vous proposeront d'écrire vos questions sur des petits papiers. Donc on va recueillir ces questions et donc ce sera des questions qui seront aussi bien à adresser donc aux personnes de la table ronde qu'aux personnes qui vont témoigner. Voilà, on pourra prendre en fin de matinée, en fonction du temps, peut-être une ou des questions à l'oral. Voilà, mais ça permet un peu de trier un petit peu les questions et de déjà les adresser plus particulièrement à un des intervenants. Est-ce que c'est bon pour cette matinée? Voilà, donc je vais tenir le temps et pour qu'on soit libéré à midi et demi. Ensuite, c'est le temps du repas et puis donc on vous expliquera pour l'après-midi l'organisation plutôt en atelier. Voilà, à tout de suite.
Pendant que Yvette rejoint la table, je voulais juste aussi remercier la mairie de Paris, la mairie du 10e arrondissement qui nous accueille ici, comme c'est dans cette très belle salle des fêtes. C'est la deuxième année consécutive que nous y venons. Nous venons aussi faire nos assemblées générales ici et nous avons toujours la chance d'avoir ces beaux palais de la République qui nous accueillent gracieusement, ce qui est important aussi pour la vie de la coordination.
Merci Christian. Le terme table ronde est un peu rigolo. Voilà, je préfère parler depuis ici, parce que là je vous vois, tandis que là au niveau de la table, là, qui n'est pas ronde... On voit juste les dessus de tête, là. Voilà, je ne sais pas si je vais bien répondre au cahier des charges. Ça va comme ça? On a pris l'habitude, c'est le 12e forum, hein, de faire le point à chaque forum de l'action qui est menée. Donc, Christian l'a fait en bonne partie. Je vais juste compléter des choses. Donc, vous savez que tout est parti d'une campagne autour d'une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale, où on demandait que soit reconnue officiellement dans les programmes scolaires donc l'éducation à la non-violence et à la paix, que les enseignants puissent avoir une formation, et puis troisièmement, que tout le personnel qui le souhaite dans un établissement scolaire puisse avoir une formation à la résolution non-violente des conflits. 2002. Alors c'est vrai qu'avec la loi du 9 juillet 2013, on a, je crois que nous, on a grossi la chose et on l'a bien remarqué. C'est peut-être quelque chose qui est dans l'ensemble passé inaperçu, mais vous avez cette expression concernant les missions des ESP. Elles organisent des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. 10 mots. 10 mots pour 10 années de militance. C'est ce qu'on appelle construire la paix à petits pas. Mais il y a des révolutions qui sont silencieuses, et je pense que pour nous, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Donc, il y a deux points de notre demande qui sont réalisés. Reste le passage donc aux élèves, former les élèves à la résolution non violente des conflits. Alors, à ce niveau-là, on est dans l'attente de prendre connaissance du prochain socle commun de connaissances, compétences et de culture. J'aurais espéré que il soit signé, enfin l'arrêté soit signé pour le forum et que je puisse vous annoncer, ça y est, on a tout gagné. Mais on en a pris connaissance, vous savez que c'est quelque chose qui a été proposé par le Conseil supérieur des programmes, donc au ministère. À partir de là, le ministre a voulu qu'il y ait une concertation qui vient de se terminer dans tous les établissements scolaires. Donc tous les personnels, donc ça fait, je sais pas, 800 000 personnes, étaient invités à répondre à un questionnaire sur la proposition du Conseil supérieur des programmes. C'était du 22 septembre au 18 octobre. C'est le ministère a lancé une année de concertation et sur le socle commun et sur tous les programmes pendant l'année scolaire 2014-2015. Donc il y a deux projets qui sont déjà établis, donc qui sont en cours de consultation. C'est le socle commun et le programme pour l'école maternelle. L'école maternelle est hors socle commun, puisque le socle commun, ça concerne la scolarité obligatoire. Et le travail va commencer une fois que le socle commun sera adopté, officiel, pour les programmes dans le secondaire et dans le primaire. Donc ça va être une année quand même assez chargée et assez intéressante pour nous. Donc on a eu connaissance, le socle commun serait mis en œuvre à partir de la rentrée 2016, alors que le programme pour l'école élémentaire à partir de la rentrée 2015. Alors, j'ai envie de vous citer quelques passages qui nous concernent. Concernant ce socle commun, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais je veux au moins attirer votre attention. Alors, il est construit autour de 5 domaines. Et pour chacun de ces domaines, il est précisé les objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle. Et puis, le champ d'activité correspondant, ça veut dire, il est précisé les compétences qu'on veut transmettre et qui va les transmettre. Voilà, c'est les deux domaines. Le champ qui nous intéresse, le domaine qui nous intéresse, c'est la formation de la personne et du citoyen. La formation de la personne et du citoyen. Déjà, le titre est intéressant. Donc là, vous avez plusieurs rubriques et donc je vous lis quelques passages de celles qui concernent développer la sensibilité, la confiance en soi et le respect des autres. Voilà, donc je lis. Par l'acquisition d'un vocabulaire précis, l'élève apprend à exprimer ses émotions, à en élucider les motifs et à les contrôler. Donc c'est vraiment un thème, non seulement connaître, être capable d'avoir du vocabulaire sur les émotions, être capable de comprendre pourquoi on a eu ces émotions, être capable de les maîtriser. C'est beaucoup. L'élève développe sa capacité. Pardon ? Eh bien, ça va être généralisé. Ça va être généralisé à tout l'enseignement obligatoire. L'élève développe sa capacité à résoudre des conflits de manière non violente, et sa maîtrise des moyens d'expression, de communication, d'argumentation qui évite le recours à la violence. Là, il y a eu un travail de la coordination et de son président très efficace pour que soit bien précisée cette notion de résolution des conflits par des moyens non violents. L'élève acquiert en même temps le respect d'autrui, il est capable d'empathie et sait se mettre à la place des autres. Il exerce des règles de civilité et pratique la bienveillance. Par la mise à distance des préjugés et des stéréotypes, il est capable d'apprécier ceux qui sont différents et de vivre avec eux. Il refuse les discriminations, respecte l'autre sexe, est sensible à l'égalité entre les hommes et les femmes et fait preuve de tolérance. Ça va changer, hein ? Alors ça, c'est les compétences, hein, qui sont bien affirmées, mais qui va être chargé de transmettre ses compétences, donc champ d'activité correspondant. Ce domaine de compétences et de connaissances engage par excellence la totalité des enseignements portés par les différentes disciplines. Bon, c'est une demande, c'est transversale, mais aussi par les situations concrètes de la vie scolaire dans son ensemble. Donc on a invité à travailler à partir des conflits entre les élèves qu'il y aura dans la cour de récréation. Ça, on a de la matière première en abondance. Il trouve un prolongement naturel dans les activités physiques et sportives qui mettent en jeu des règles, des valeurs et des arbitrages. Bon. L'enseignement moral et civique mis en place tout au long de la scolarité fournit une occasion privilégiée pour développer et mettre en perspective ses compétences. Ça veut dire que l'heure par semaine et par classe durant toute la scolarité obligatoire qu'on demandait, qu'on suggérait, à titre d'exemple, elle est inscrite dans l'heure d'éducation morale et civique. Autrement dit, si... Alors, la concertation vient d'avoir lieu, après il va y avoir un rapport qui est fait, et ça peut encore bouger, donc on est... je ne sais pas s'il fallait trop faire de bruit autour de ça, mais je pense que l'essentiel va être conservé. À ce moment-là, on pourra dire... Ça y est, la campagne lancée en 2002, elle est terminée. Et ce ne sera plus la peine de signer la lettre pétition. On passe à autre chose, et Christian en a déjà donné des aperçus. Alors, vous voyez, le défi qui se pose, c'est que nos associations, donc on a bénéficié quand même de l'expérience de nos associations, ont certainement déjà touché plusieurs milliers d'élèves. Mais là, si c'est inscrit dans le socle commun, c'est plusieurs millions d'élèves qu'il faudra toucher. Donc, vous voyez, il y a un changement d'échelle. Et comment faire? Alors, j'ai encore un peu de temps. Voilà. Je voulais, à titre d'exemple, donc, témoigner d'une expérience en cours au niveau de l'association que je préside, Non-Violence Actualité. Depuis quelques années, on a décidé de lancer des formations en utilisant les outils qu'on vend. Voilà. Et dans ces outils, vous avez deux groupes de programmes qui sont des programmes de développement des compétences psychosociales. C'est les programmes de la catégorie Vers le Pacifique et puis les programmes de la catégorie Compte sur moi. Alors, j'insiste, j'ai du mal à faire passer l'idée, mais ce sont des programmes québécois. Bon, c'est pas de chez nous. Mais à la fois, ce sont des programmes, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils ont été testés dans les écoles et qui ont fait l'objet d'évaluations scientifiques par des universitaires, des profs de l'éducation. Donc, vous avez une validation qui a été faite scientifiquement au Québec. Est-ce que ces programmes sont applicables en France? On fait le pari que oui. Et c'est pratiquement les seuls programmes qui l'ont fait. En France, on n'a qu'un seul programme qui a cette validation, c'est celui de Jacques Fortin, Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle. Mais toutes nos associations ont leur propre programme. Mais il s'agit pour nous de faire prendre au sérieux par l'institution les programmes qu'on peut leur proposer. Et en attendant qu'il y ait des programmes, il y en aura, en France, établi et qui soit validé par nos chercheurs universitaires, notre proposition, c'est de faire la promotion de ces programmes. C'est certainement ça qu'on aura l'occasion de dire quand on verra les prescripteurs à l'université de printemps. Alors, l'expérience qu'on mène actuellement, c'est un collège qui a été demandeur d'une intervention de NVA. Parce que leur problème, c'est les sixièmes, on n'arrive plus à en faire façon, les élèves de sixième. Donc on est intervenu une première fois et on a réfléchi en disant mais ce n'est pas une intervention qui va suffire, il faudrait une série d'interventions. Et donc la direction du collège, dans son ensemble, a marché. Elle a dit on va déposer un programme, financer un projet donc au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé. On s'est dit, en faisant ça, ils n'y croyaient pas trop. Hein. Et puis nous, on s'est dit, Non-Violence Actualité, on ne fait pas partie des associations qui sont encore bien identifiées. Et ça a marché. Voilà, donc on est sur ce projet-là, je ne vais pas le développer plus. On intervient dans toutes les classes de 6e, 7 interventions autour d'un programme qu'on a bâti grâce au programme Vers le Pacifique, avec d'une part l'idée de co-éducation, les profs principaux de la classe, à qui on a fourni tous les documents, en disant, une fois, nous, on intervient cette année, mais l'an prochain, il faudra que le collège soit complètement autonome. Combien encore ? C'est fini ? Voilà. Et puis, donc, je conclue. un mode d'évaluation qu'on espère sera probant pour faire un rapport à l'ARS, en espérant qu'il y aura d'autres cas comme celui-ci. Voilà. Au suivant.
Bonjour. Donc je suis Sophie Rougevin-Maville et sur le papier il y avait écrit que je suis médiatrice, mais en fait je suis traductrice et je vais vous parler d'un logiciel de traduction aujourd'hui qui s'appelle la communication non violente. Et en fait, avant de devenir médiatrice traductrice, j'ai travaillé dans les pays en guerre pour la Croix-Rouge internationale pendant 10 ans, donc à constater dans le vif du sujet les conséquences de la guerre. Et je me suis rendu compte qu'avec la communication non violente, donc qu'on appelle la CNV, c'est vraiment un outil qui est à la fois très simple et très subtil pour transformer les relations et pour transformer la vie. Voilà, et être vraiment en lien avec l'essentiel de la vie et créer une qualité de relation qui nous permette d'être en lien avec les autres et de nous rejoindre au niveau de ce qu'il y a de plus fondamental, de l'essence de ce qu'il y a en nous. Voilà. Donc le titre de mon intervention, c'était « Accueillir l'enfant dans l'élève et puis créer la cohésion au sein du groupe ». Et en fait, j'aime beaucoup ce titre parce que tout est dans le mot « accueillir ». Et pour moi, c'est un mot qui est essentiel. Et ça passe par, déjà, comment on va s'accueillir soi, comment on est là tout de suite dans le moment. Et plus un adulte qui encadre des enfants est en mesure d'être en lien avec ce qui se passe pour lui et de s'accueillir lui-même, et plus il va être capable d'offrir cette qualité merveilleuse qu'on appelle l'empathie, cette qualité de présence et d'écoute à l'enfant. Et c'est ça qui va vraiment permettre à l'enfant de se sentir accueilli et de créer une cohésion de groupe qui soit pérenne. Voilà. On est bien d'accord que les qualités de relation au travail sont essentielles pour notre bien-être dans n'importe quel contexte professionnel, et c'est la même chose pour les enfants. Et on sait que dans l'éducation nationale, il y a énormément de souffrance parce qu'il y a énormément de pression, les programmes à accomplir, le manque de temps, les conflits entre élèves, les parents qui ont plein de récriminations et les enseignants qui n'ont pas du tout la disponibilité avec toute cette charge de travail de répondre à ses parents de manière empathique. Et on voit que ça crée un cercle vicieux qui est très compliqué, qui est très douloureux pour tout le monde et qui va se répercuter sur les enfants. Voilà. Et le problème aussi, c'est que, comme vous l'avez souligné avant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu encore beaucoup de formation à la relation. Et bien souvent, les enseignants, ils sont formés, à part pour les profs de sport, mais ils sont formés dans une technicité, mais ils ne sont pas formés à l'art de la relation, qui est vraiment fondamental. Et du coup, ça crée du décalage et beaucoup de souffrance parce que les enseignants choisissent ce métier parce qu'ils ont vraiment envie de contribuer au bien-être des enfants et ils ont vraiment une intention éducative qui est magnifique, qui est de renforcer la confiance que l'enfant va avoir en lui. Et ils se retrouvent avec des contraintes et un contexte qui est extrêmement différent de ce qu'ils avaient imaginé. Et ça crée un décalage qui est très douloureux. Et du coup, voilà, beaucoup de stress, beaucoup de congés maladie, de burn-out et de difficultés pour tous ces gens qui n'arrivent pas à accomplir leur mission qui leur tient pourtant tellement à cœur. Voilà. Et donc, on est dans une situation de crise. Et en fait, l'étymologie du mot crise, c'est vraiment quelque chose qui nous est donné pour pouvoir grandir. C'est une opportunité de croissance. Et ça, voilà, c'est là que la communication non violente, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire qui peut vraiment contribuer de manière très puissante à changer ce cercle vicieux et à aider les enseignants à réaliser leur potentiel et leur mission de vie de la manière la plus riche qui soit. Voilà, et il y a plein d'autres, l'intelligence émotionnelle, il y a plein d'autres outils comme ça, mais la CNV, voilà, c'est un des outils que moi j'ai découvert. Et c'est quelque chose qui nous permet de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, de sentir, de parler de ce qu'on ressent et de nos besoins, qui sont des choses essentielles. Et c'est là qu'on va rejoindre les autres au niveau des besoins. De changer de regard, de changer de lunettes sur la situation. Et d'avoir donc ce logiciel de traduction dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je suis moi en mesure de décoder, de traduire ce que la personne me dit, et de ne plus prendre une injure ou une violence qui est exprimée contre moi, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe pour la personne quand elle est en train de s'exprimer de cette manière-là, et bien ça va tout changer. Donc ce logiciel de traduction, ça prend un petit peu de temps en fonction des gens pour l'intégrer, parce que ça nous demande de reprogrammer notre système, donc c'est comme un ordinateur, et ça prend plus ou moins de temps en fonction des gens. Donc tout à l'heure, vous aurez une personne qui va venir témoigner, qui s'appelle Pascal. Pour lui, ça a été très vite, mais il y a des gens comme moi, par exemple, ça m'a pris beaucoup plus de temps, ça prend des années d'intégrer ce changement de mentalité, parce qu'en fait, on n'est pas éduqué à ça, on est éduqué à penser... ce que le créateur de la communication non-violente, Marshall Rosenberg, appelle dans le langage chacal, donc le langage des jugements, des interprétations, des critiques. On va imaginer que quand il se passe quelque chose, c'est contre nous. Alors qu'en fait, la CNV nous invite à prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, prendre le temps de ralentir la communication pour sentir, ok, qu'est-ce qui se passe là en moi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Et ça nous permet d'entrer en lien avec l'autre et de comprendre que derrière toute violence, derrière tout jugement, il y a en fait une souffrance qui est exprimée, un besoin qui est non satisfait. Voilà. Et avec cette traduction, on va pouvoir décoder ce qui se passe et ne plus prendre contre soi quelque chose qui est exprimé peut-être de manière violente. Et ça change tout. Et quand on est en mesure de faire ça avec les enfants, c'est magique. Voilà. Et moi, j'ai travaillé dans un établissement scolaire pendant 1 an et demi et j'ai essayé de faire ça. J'avais un espace pour accueillir les élèves qui étaient en souffrance à un moment X de la journée, pour leur donner un espace d'écoute où ils pouvaient juste déposer ce qu'ils vivaient. Et ce qui est magique, et ce qu'on sait par les traditions bouddhistes, etc., c'est que les émotions, une fois qu'elles sont accueillies, elles vont se transformer, elles vont bouger. C'est comme de l'eau qui coule sur une pente inclinée. Quand on est en mesure d'accueillir, d'être vraiment avec une qualité de présence très fine, d'être vraiment avec l'enfant là où il est, eh bien, naturellement, il va finir par se sentir vraiment entendu, rejoint, et il va pouvoir retrouver sa force, retrouver, être en lien avec ce qui est vraiment important pour lui, et ça va complètement changer son état émotionnel. Voilà. Et si on est en mesure de faire ça, de créer des espaces comme ça d'écoute empathique au sein des établissements, c'est vraiment très précieux, parce que ça permet vraiment aux enfants de se sentir rejoint, profondément entendu, ce dont on a tous besoin, même en tant qu'adulte, on a vraiment besoin de ça, de cette qualité d'écoute que les autres peuvent nous offrir. Eh bien, l'enfant, si on est en mesure de lui donner ça, c'est la plus belle chose qu'on peut lui donner, et ça va vraiment l'aider à repartir. Et moi, j'ai vu des enfants qui venaient, parce qu'ils s'étaient bagarrés dans la cour, parce qu'ils étaient hyper mal, parce que leurs parents leur disaient pas qu'ils les aimaient, enfin voilà, des choses parfois très intimes et très douloureuses. Eh bien, avec un quart d'heure, 20 minutes de présence totale, où on fait le cadeau à l'autre de sa présence pure, j'ai envie de dire, eh bien ça, c'est vraiment profondément transformateur pour la personne. Et ça, vous pouvez l'expérimenter aussi entre vous, dans la relation entre amis. Quand quelqu'un est en souffrance et qu'on arrive et qu'on commence à lui donner des conseils ou à lui dire ce qu'il devrait faire, ou avec une bonne intention, évidemment, parce qu'on a toujours une bonne intention quand on veut donner des conseils à quelqu'un, eh bien, est-ce que ça l'aide la personne? Pas forcément, à moins qu'elle ait vraiment envie de recevoir des conseils, mais ce qui peut aider surtout, c'est offrir à l'autre la qualité de notre présence. Et voilà. Et si on fait ça avec les enfants, c'est vraiment extraordinaire. Et ça leur permet à eux de goûter ce que c'est que l'empathie et de développer ça. Parce qu'un enfant qui a reçu de l'empathie, il est en mesure, lui, ensuite, de pouvoir écouter les autres. Et donc, c'est ça qu'on va faire aussi. On va traduire, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent comme sentiment, quels sont ses besoins fondamentaux qui ont été touchés quand il s'est battu dans la cour, par exemple. Et ça va lui redonner de la force, et après, il va être en mesure de pouvoir écouter les autres. Voilà. Donc, c'est un processus qui est hyper simple. Quand je vous en parle comme ça, c'est assez simple, hein. C'est l'écoute, on va trouver les sentiments, les besoins, voilà. Et ensuite, on va, s'il y a un autre élève, on va essayer de faire la même chose pour l'autre élève, pour que les deux personnes puissent être entendues au niveau des besoins. Et là, il y a une question toute simple qui peut aider, c'est: que l'as-tu entendu dire? Voilà. Cette question-là, pour moi, elle est magique. On peut l'utiliser dans tous les contextes pour être sûr que quand on a exprimé quelque chose, quand un élève a exprimé quelque chose, pour être sûr que l'autre, il a bien entendu ce qui a été dit au niveau des besoins, au niveau de l'intention. Parce que c'est la communication, comme vous le savez, c'est quelque chose d'assez subtil et de pas forcément évident. Et que quand on exprime quelque chose, on n'est pas forcément entendu dans ce qu'on a voulu dire. Et donc une question aussi qui est très utile pour un adulte qui s'exprime à un enfant, c'est: Qu'est-ce que tu as entendu de ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu as compris de ce que je viens de dire? Et moi, je vois que cette question-là, elle permet vraiment de clarifier est-ce que le message, il est bien passé ou pas? Et est-ce qu'on est en lien avec l'autre et avec l'enfant à ce moment-là? Voilà. Et donc, la CNV, elle propose ça. Elle propose l'écoute des sentiments et des besoins. Et ça, ça crée une forme de sécurité qui est vraiment importante. Voilà. Et en communication non-violente aussi, la manière dont on voit les conflits, c'est que les conflits, c'est naturel. Dans les écoles, il y en a tout le temps, c'est obligé, hein, entre la pression de la hiérarchie, la pression des programmes, la direction qui est vraiment stressée, les profs qui ont des programmes à mettre en œuvre, etc. Il y a des conflits. Les élèves se sentent mal, et voilà. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que les conflits, ça fait partie de la vie, c'est naturel, et c'est gérable. Et quand on a cet outil de traduction, on peut vraiment... voir qu'est-ce qu'il y a de enrichissant à découvrir dans le conflit. Parce que le conflit, il a quelque chose à nous apprendre sur nous et sur l'autre. C'est vraiment encore une opportunité de croissance qui nous est donnée. Voilà. Et donc, quand on peut accueillir, pour revenir encore sur ce mot accueil, quand on peut accueillir les émotions de l'enfant ou nos émotions à nous, parce que ça passe, pour accueillir l'émotion de l'enfant, c'est évident que ça passe par nous, déjà nous accueillir nous pour être bien, pour être disponible. Parce que les émotions, elles viennent nous renseigner évidemment sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et sur nos besoins. C'est comme, on utilise souvent cette image en communication non-violente, d'un tableau de bord. Quand vous êtes en voiture et qu'il y a un signal rouge qui s'allume, vous n'allez pas prendre un marteau et taper sur le signal jusqu'à ce que le signal soit disparaisse. Vous allez prendre soin de ça. Donc une émotion très forte qui apparaît, chez vous ou chez un enfant, elle demande à être accueillie, elle demande à ce qu'on en prenne soin. Elle a besoin de ça. Et plus on est en mesure de faire ça, voilà, et mieux les choses se passent. Et du coup, en tant qu'adulte, quand on encadre un groupe, c'est vraiment magique à quel point ça marche et à quel point c'est facile. Donc, la notion de congruence, elle est vraiment précieuse parce que les enfants, comme on le sait, ils apprennent beaucoup par imprégnation, beaucoup moins que par faire ce qu'on leur dit. Ils apprennent en voyant chez l'adulte qui les encadre le comportement qu'il a. Donc plus on est en mesure, nous, d'incarner ça, d'incarner, d'être cette personne empathique qui va être capable de décoder les sentiments, les besoins, et plus l'enfant, il va se sentir en sécurité et il va être en mesure de trouver sa place dans le groupe et de respecter les autres. Et ça va lui permettre de développer la confiance en lui, la confiance dans la relation à l'autre et dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment important, la congruence. Et ça part par, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la formation des adultes, pour pouvoir donner cet espace aux enfants, poser ce cadre de sécurité, de bienveillance, d'empathie, qui va vraiment permettre d'accueillir les conflits et de les transformer, en fait, et d'apprendre de ces conflits. J'ai beaucoup aimé aussi ce que Annie a dit tout à l'heure par rapport à... Elle est où, Annie ? Elle est là. Par rapport à l'ITEP, ces enfants dans l'ITEP, ce qu'ils voulaient, c'était déjà trouver la paix en eux. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est que la médiation, c'est effectivement pour régler les conflits entre les élèves, mais c'est aussi régler les conflits avec soi-même, parce que souvent, on est tiraillé entre plusieurs parties de nous. Donc, c'est ça, ça va être l'accueil empathique de « Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ?» Et c'est très important. Et en fait, quand l'adulte est en mesure de faire ça, voilà, ça va vraiment aider l'enfant à développer sa confiance en lui et du coup, sa capacité d'apprentissage. Parce qu'un enfant qui est mal, qui est en pleurs, qui est perturbé parce qu'à la maison, ça va pas, il n'est pas en mesure d'apprendre. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas conscience de ça, que l'enfant il a besoin de déposer son fardeau pour pouvoir ensuite être disponible à l'apprentissage, voilà, ça c'est vraiment crucial. Donc, pour ça, l'association pour la communication non violente organise des formations spécifique pour le milieu scolaire, pour vraiment aider les enseignants à mettre en place dans leur classe un climat de bienveillance, de cohésion, avec des jeux coopératifs, avec toute cette philosophie que je viens d'évoquer. Donc il y aura sur la table des brochures avec toutes les interventions qui sont proposées par les différentes personnes de l'association et comment aussi on peut ajuster en fonction des besoins de chaque établissement les formations qui sont proposées. Voilà. Donc il y a ça que je voulais vous dire et puis aussi le guide qui vient de sortir au mois de juin de l'éducation nationale qui est le guide pour la justice préventive et restaurative qui valide en fait cette démarche, qui valide plusieurs démarches, donc il y a la discipline positive, la communication non violente et la justice restaurative. Donc dans ce guide qui est disponible sur internet, qui n'a encore, voilà, que vous avez ramené, ok, je vais conclure, super, merci. Dans ce guide, vous trouverez beaucoup d'explications là-dessus et aussi sur la justice restaurative. L'idée de la justice restaurative, c'est vraiment de recréer du lien entre les gens. Parce qu'on sait que la punition, ça ne marche pas, que exclure un élève, ça va renforcer ses mécanismes de défense et ça va pas contribuer à résoudre le problème parce que la personne n'aura pas été entendue fondamentalement dans ce qu'elle vit. Donc la justice restaurative et les cercles restauratifs, qui est une des techniques qui peut être utilisée, que moi j'ai expérimenté pour traiter des cas de harcèlement et de menaces de mort, c'est des choses qui marchent très très bien. Voilà. Et ça, c'est aussi des formations que vous pouvez recevoir dans le cadre de la communication non violente. Voilà, je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention.
Bien, bonjour. Je vais vous présenter un outil de travail qui a été créé dans un lycée à la demande d'une équipe éducative, dans un lycée polyvalent, que ce lycée a appelé Passeport pour la réussite et qui est formalisé maintenant, enfin depuis 2007, donc ça fait un petit peu de temps, dans un ouvrage qui s'appelle « Développer les compétences sociales des adolescents par des ateliers de parole », édité chez RETS, et qui est un prêt à l'emploi, c'est-à-dire que les exercices, c'est un atelier de parole avec exercices, les exercices sont présents dans l'ouvrage et peuvent être photocopiés et utilisés dans le cadre de l'atelier. Alors, le diaporama peut tout à fait être mis à la disposition des personnes qui le souhaitent. Il a été suggéré que ça soit envoyé avec le compte rendu. Voilà, je pense que c'est réalisable. C'est réalisable, donc voilà. Donc, on va passer à la première diapo. Voilà, l'atelier de parole, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace et un moment qui est proposé à des adolescents, à des jeunes, dans un cadre. Alors, ça peut être le cadre scolaire, collège, lycée, mais aussi d'autres cadres, et qui leur permettent d'échanger entre eux et avec des adultes animateurs sur des sujets généraux et universaux qui concernent chaque personne, qui concernent chaque adolescent en devenir. Alors, ces ateliers fonctionnent avec 6 ou 7 jeunes et 2 animateurs sur une durée moyenne de 1h30 à chaque fois. Bien sûr, un atelier peut se reproduire de nombreuses fois dans l'année scolaire et j'ai assuré pendant un certain nombre d'années la formation de personnel scolaire sur cette question-là, sur ces ateliers. Il faut à peu près une journée de formation pour arriver à saisir comment ça fonctionne, quelle posture prendre. On change de paradigme, un peu comme l'a dit la précédente intervenante, quand on travaille de cette manière-là. Et donc, si on a du désir, on y arrive d'une façon assez rapide. Passer à la diapo suivante. Alors, les personnes, la particularité de ces ateliers, c'est bien sûr qu'ils sont animés par le désir de ceux qui veulent les animer, mais que chacun abandonne son statut social. On n'est plus avec un statut social durant ce temps d'atelier, mais on est dans des relations de personne à personne, ce qui change absolument les choses, qui n'est pas du tout insécurisant. L'expérience nombreuse que j'ai pu avoir ou que d'autres personnes qui ont animé ces ateliers peuvent avoir, c'est que lorsque les jeunes se retrouvent avec leurs enseignants ou leur conseiller principal d'éducation ou tout autre personnel de l'établissement, une fois que l'atelier est terminé, eh bien ces jeunes-là reviennent dans leur posture traditionnelle et je n'ai jamais entendu de dérapage dans ces relations de personne à personne. Les adultes deviennent des animateurs, ils sont simplement garants du cadre. Ils accompagnent ce qui se déroule, mais ils sont participants, c'est-à-dire qu'ils vont faire les exercices et participer aux exercices comme les autres. Merci. Alors, la particularité de ces ateliers, contrairement aux groupes de parole thérapeutiques, c'est qu'il y a des médiateurs entre les personnes présentes, et ces médiateurs, ce sont des exercices qui sont proposés, qui sont des outils de parole, et il s'agit, pour chaque participant, de répondre au fur et à mesure aux questions qui sont posées dans l'exercice, et puis ensuite de se laisser porter par des effets de sens éventuels, et donc de rebondir sur ce que quelqu'un a pu apporter en répondant à l'exercice. On va présenter un exercice qui est pris dans l'ouvrage, au chapitre sur la connaissance de soi, sur la confiance, en qui ai-je confiance. Voilà. Et donc chacun est amené à lire la première question, voilà, à quel mot me fait penser l'expression « j'ai confiance » et nous mettons en commun les mots d'une façon comme dans un brainstorming ou un remue-ménage. Et puis ensuite on entre un peu plus précisément dans « j'ai confiance en qui ?» Et donc chacun va dire, bien sûr tout en respectant sa pudeur et son désir de ne pas en dire trop, va dire en qui il a confiance dans sa vie quotidienne. Ensuite, j'ai confiance en quoi, etc. Et donc l'atelier, l'exercice se déroule sur cette thématique-là, dans une mise en commun. La particularité, et ça, ça va se sentir très vite dans la manière dont les animateurs vont parler, dans le premier exercice qui est proposé, c'est essentiel que ça soit un des animateurs qui commence à s'exprimer pour montrer le ton des échanges, s'exprimer avec pudeur et d'une manière très concrète. C'est un atelier qui est vraiment extrêmement concret, que j'appelle au ras des pâquerettes. Merci. La première séquence de l'atelier de parole est très particulière et fondamentale parce que c'est un moment où va être présenté aux jeunes le fonctionnement de cet atelier, le cadre proposé, le contrat, et aussi va leur permettre de repérer si cet atelier est vraiment un endroit où l'on peut parler, parler librement, dire ce que l'on pense. Alors, la première séquence va mettre l'accent sur la parole. On est souvent, il y a souvent cette question des jeunes qui demandent « Mais à quoi ça sert ?» À quoi ça sert de venir ici et de parler ?» Alors, je réponds très souvent « Ça sert à rien. » Mais absolument à rien. Techniquement, ça sert à rien. Ça ne vous apportera pas un résultat à un examen ou à un concours. Par contre, ça va être un moment de plaisir. Il est souhaitable que ça soit un moment de plaisir, un moment d'échange, un moment de découverte, un moment d'interpellation de soi, d'interpellation des autres. Et ça peut un jour vous apporter quelque chose dans votre vie en lien avec des questions essentielles que nous nous posons tout au long de notre existence. Qui suis-je? L'autre, c'est qui pour moi? Quelle relation je peux construire avec l'autre, etc., etc. L'atelier valorise la parole de chacun. On n'est pas dans le champ du langage qui est fonctionnel et qui est utilitaire. On est dans le champ de la parole qui vient à naître sur des lèvres ou vient à naître dans la tête de quelqu'un. Parole qui est parfois surprenante et qui produit une certaine surprise quand elle est exprimée. Voilà, c'est à la recherche de cette parole-là, cette parole fondatrice, que chacun peut exprimer, animateur ou jeune. Et la première séquence insiste particulièrement sur le fait que, dans l'atelier, aucune parole n'est évaluée, que nous sommes en posture de témoin, que nous allons parler de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, et donc que le témoignage n'est pas évaluable. Personne ne peut s'autoriser à évaluer le témoignage de quelqu'un. Il est à accueillir tel quel. Et donc, du coup, on peut parler sans avoir le risque de produire des bêtises ou de répondre d'une façon incorrecte aux questions. Bien évidemment, la seule parole pour laquelle les animateurs auront une position différente, c'est toutes les paroles qui tombent sous le coup de la loi, que le jeune peut exprimer dans l'atelier à un moment donné, l'animateur disant tout simplement « ce que vous venez de dire ou ce que tu viens de dire tombe sous le coup de la loi, c'est illégal en France » et ça s'arrête là. L'atelier, dans la première séquence, on a un contrat qui va être contractualisé entre les participants. Les membres vont à haute et intelligible voix dire leur accord ou leur désaccord à l'égard de ce contrat. Et donc il y a un premier temps de connaissance de ces règles. Quelles sont les règles dont nous avons besoin pour fonctionner ensemble dans cet atelier? Voilà, vous les avez. Les règles principales sont énoncées ici. Elles sont classiques dans l'animation de groupe. Il y a un moment d'accueil des désaccords. C'est-à-dire que l'animateur demande aux participants jeunes s'ils sont d'accord ou en désaccord. Et certains peuvent dire, bon, je suis pas d'accord avec ce cadre. Et on leur demande de préciser un peu pour quelles raisons, pour réajuster, éventuellement négocier quelque chose, si quelque chose est négociable. Et la plupart du temps, ils n'ont pas de réponse. C'est simplement un attitude assez caractéristique d'adolescents qui s'opposent. Et nous avons à accueillir aussi cette opposition, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez, tout en n'étant pas d'accord avec ce cadre, quand même fonctionner dans l'atelier et respecter les règles? Et en général, ils sont d'accord pour le faire, tout en n'étant pas d'accord à l'égard du contrat. Et ça marche tout à fait bien. Nous entrons dans les effets, parce que c'est ça qui va vous intéresser maintenant, après la description de cet atelier et de son fonctionnement. Les effets qui ont pu être constatés, puisque ce type d'atelier fonctionne depuis, avant le livre, la production du livre, donc fonctionne depuis 2005 à peu près, donc on a presque 10 ans de recul. Ce qui est constaté, c'est que ça apaise les relations entre les professionnels de l'établissement scolaire et les adolescents élèves. Ça les apaise quand ils redeviennent, pour les uns professionnels et pour les autres élèves. Et donc du coup, la communication verbale est facilitée, et la communication verbale, non verbale, apparaît entre les jeunes et les professionnels, notamment dans les couloirs. Il y a un évitement. Il y avait un évitement auparavant. Les jeunes croisent les adultes, mais ne les regardent pas, tournent la tête, ne répondent pas quand ces adultes leur disent quelque chose dans les couloirs ou dans les lieux ou dans d'autres lieux qui ne sont pas la classe. Et puis, à partir du moment où cet atelier a fonctionné, où les personnes ont pu parler les unes avec les autres, il y a des regards. On se dit bonjour les uns les autres. On se fait des sourires. On échange des clins d'œil qui n'existaient pas auparavant. Donc, il y a une souplesse. Ça adoucit les relations, comme si la peur et l'agressivité, l'inquiétude n'avaient plus leur raison d'être dans les échanges. C'est comme si on passait deux rapports de force de la relation raide et difficile à la suivante, à la relation souple et fluide dans laquelle la communication peut circuler, les messages peuvent circuler de l'un à l'autre dans des allers-retours qui sont parfois très intéressants. Nous passons à la qualité des contenus, des paroles des jeunes, qui surprennent énormément les professionnels. Moi, je suis à chaque fois étonnée, après, à la fin d'un exercice, quand on fait le point sur, à la fin d'un atelier, quand on fait le point après un atelier avec les adultes, ils sont sidérés parfois de la qualité des réponses, de la qualité des paroles des jeunes, en se disant, mais c'est incroyable ce que j'ai entendu. Quelle richesse intérieure, quelle bienveillance, quelle perspicacité, quelle maturité. Et donc c'est très intéressant de voir que le regard des adultes change sur les jeunes. Pour les adolescents, ces moments à part, ces moments vraiment, ces instants de grâce qui se produisent sont toujours considérés comme peu fréquents. C'est toujours difficile dans un établissement de prendre l'habitude de ces ateliers, et souvent ils demandent à ce qu'ils soient renouvelés. Passe à la suivante. Pardon. 2 minutes, d'accord. Alors, à quelles conditions cet atelier peut-il fonctionner comme lieu de bientraitance les uns à l'égard des autres? Eh bien, c'est en acceptant d'échanger avec les jeunes sur le terrain de la vie quotidienne. C'est pas du tout évident en milieu scolaire, mais d'échanger vraiment au ras des pâquerettes sur des situations de sa vie. C'est d'accorder de la valeur à la parole du jeune. Une parole qui n'est pas une parole d'élève, mais une parole d'une personne. C'est d'abandonner les rapports de pouvoir et d'être dans des relations égalitaires, dans des relations réciproques. Et c'est aussi croire que chaque jeune peut apporter à l'adulte quelque chose d'extrêmement fort. passe à la suivante. Voilà, la bientraitance, bon, c'est un concept qui n'existe pas dans le dictionnaire encore. Voilà, on a les concepts de maltraitance, mais pas le concept de bientraitance. Voilà, c'est une démarche hein, qui est basée sur une direction, un sens, et qui accorde de la valeur à l'autre. Ah, c'est... Et ben, c'était terminé. Bon, ça se termine là-dessus. Ben voilà, on termine par ce beau concept de bientraitance. Merci de votre attention.
On expérimente, on n'a pas de papier, donc voilà.
Voilà, merci à tous les intervenants d'avant, parce qu'en fait, dans notre démarche systémique, on s'aperçoit que ici, on est dans la même cohérence, dans les mêmes champs d'intervention, avec des façons d'intervenir qui sont différentes, complémentaires, et que tous ces complémentaires là enrichissent notre chemin vers la paix, et ça c'est voilà, moi ça m'enchante, voilà. eh bien nous, génération médiateur, on vient s'inscrire dans ce système qui travaille pour la paix, et on est une association, hein, loi 1901, agréée par l'éducation nationale, pour nous c'est super important, et on forme depuis presque 20 ans dans les établissements scolaires du primaire jusqu'à bac plus, et aux compétences psychosociales dont on a tant parlé tout à l'heure, et sur l'accueil des émotions, sur la qualité de parole, toutes ces choses-là. Mais aussi, on va un tout petit peu plus loin parce qu'on pense que, au-delà de sa capacité à se gérer, on peut aller vers la médiation par les pairs, c'est-à-dire que quand le conflit est à ce point, les jeunes sont en capacité de mettre en place une médiation. Alors, dans un premier temps, notre cœur de métier s'est complètement centré sur les établissements scolaires. Et puis, on s'est aperçu qu'effectivement, dans une démarche d'un systémique, c'était important d'aller voir dans l'extrascolaire et même jusqu'à la parentalité, parce que c'était important que, justement, tout le système éducatif, aussi bien scolaire, extrascolaire, périscolaire, parce qu'il y a tous les mots, et parental, soit dans cette même cohérence éducative.
Oui, juste un petit mot pour dire cet après-midi, en fin de matinée, vous aurez un petit compte-rendu d'une expérience qui a été menée à Louhan avec Céline Bétourné qui voit à contrat ce qui a été fait, en effet, sur l'école maternelle, l'école primaire, le périscolaire et les parents, sur 4 formations simultanées et qui décuplent du coup les forces de ce que l'on peut transmettre. Ah, tu veux que je continue? Allez, j'y vais. J'y vais. On constate que l'estime de soi... Ah, et chacun de vous l'avait dit en filigrane, ou même de façon plus nette, l'estime de soi a une force énorme, et c'est ça qui va, au bout de la chaîne, générer ou non de la violence. On remarque en effet qu'un enfant qui est en carence, en déficit d'estime de soi, eh bien, il a peur. Peur de l'autre, peur de la relation avec ses pairs, peur d'avoir des mauvaises notes, peur de ne pas répondre aux attentes de papa et maman, peur de ne pas répondre aux attentes des profs, peur d'être un mauvais camarade, peur d'avoir, de ne pas réussir à dire sa poésie, peur de... Je pourrais vous faire une liste longue comme cela. Et tout ça, toutes ces peurs, eh bien, ça va générer de l'insécurité. Et c'est ces peurs et ces insécurités qui vont générer de la violence. Du coup, si je veux baisser le niveau de violence dans un établissement, eh bien, il va falloir que j'aille au bout de la chaîne, au début de la chaîne, c'est-à-dire renforcer l'estime de soi. Et notre parcours de formation, eh bien, c'est bien ça qu'il veut faire, c'est-à-dire renforcer l'estime de soi. Et c'est ce qu'on voit vraiment en filigrane, en toile de fond de notre formation, le renforcement de l'estime de soi. Et je continue, allez, je continue même. On se fait des petits comme ça. On remarque que ce qui est également en jeu dans cette histoire-là, c'est le fait qu'on a tendance, nous les adultes, à confondre le mot agressivité et le mot violence. Et on voit bien qu'au bout de la chaîne, c'est bien l'enfant qui en fait les frais. L'agressivité, pour nous, l'agressivité, c'est une force de vie. C'est une puissance de combativité, une puissance d'affirmation de soi. C'est l'énergie qui me permet de demeurer vivant, qui me pousse à me protéger des dangers et à faire les efforts nécessaires pour atteindre mon objectif. D'ailleurs, lorsqu'un sportif démontre un esprit de combativité, on dit de lui qu'il est agressif. Le mot est bien choisi. Éliminer l'agressivité de l'homme ferait de lui un être vulnérable, incapable de se charger de sa propre protection. Et on voit bien que l'homme de Néandertal, pourquoi il est venu jusqu'à nous et pourquoi nous on est là aujourd'hui en 2014, c'est bien parce qu'on avait cette agressivité, cette force de vie pour mener nos projets, pour mener nos objectifs. Et du coup, la violence.
Et oui, la violence. Eh bien, la différence, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que la différence entre la violence et l'agressivité, c'est que la violence, elle est acquise. On ne naît pas violent. On est, N-A-I-T, agressif. C'est-à-dire que la violence, elle est acquise, consciemment ou non. Hein, c'est ça, c'est cette conscience-là de la différence entre l'agressivité et la violence qui va nous aider. Et elle sert à humilier, rabaisser, soumettre l'autre pour se rassurer, pour prendre le pouvoir. Et c'est parce que j'ai peur de l'autre, c'est parce qu'effectivement, on parlait de l'estime de soi tout à l'heure, que je vais devenir violent parce que je ne sais pas faire autrement. Et la violence, elle est acquise. Et ce qui est important, c'est que de comprendre qu'elle n'est pas inscrite dans la nature humaine. Et c'est là où le mot violence et le mot agressivité, ça nous paraît très très important d'en faire la différence, parce que on les confond. Il y a une confusion dans le vocabulaire général. Hein, il y a une et cette confusion-là, ce que disait Anne tout à l'heure, ça va contre le jeune, parce que les adultes qui l'entourent n'ont pas forcément non plus conscience de cette différence. Quand Edith parlait, le jeune, il a le droit de dire non. Mais il n'est pas violent, il est juste en train de dire, il y a quelque chose qui ne me va pas, moi. Il le fait pas contre nous. Et quand tout à l'heure on parlait de la communication non violente, je fais les choses pour moi. Après, le comportement, et c'est là où l'agressivité, elle s'éduque. C'est-à-dire que c'est très important d'aider le tout petit jusqu'à nous-mêmes. On parlait du chemin long et difficile de la communication non violente dont le processus est si simple et l'application si difficile. Enfin, bon, pour moi. L'idée, c'est justement de bien comprendre est-ce que je suis dans la violence, c'est-à-dire qu'est-ce que j'oblige l'autre à se soumettre, etc., ou est-ce que je suis en train de me protéger. Et comment, justement, je me protège pour ne pas être violent et pour respecter l'autre et ne pas toucher à son intégrité. Parce que la violence, c'est une agressivité qui attaque l'autre, qui prend le pouvoir sur l'autre, qui l'oblige à se soumettre. Et là, on n'est plus dans l'agressivité, on n'est plus dans la protection de soi. Cette façon de faire est importante.
Pour compléter ce que dit Marie-Christine, la violence, du coup, elle va enrayer la résolution du conflit. Alors que la combativité et l'agressivité, elle va au contraire aider à le résoudre et permettre de le résoudre. C'est la grande différence aussi.
Il y a des endroits où des personnes pensent que l'assertivité, c'est-à-dire la facilité à dire « je ne suis pas d'accord », n'est pas acceptée. Et ça, c'est pas juste pour l'enfant.
Oui. Un autre aspect qu'on voudrait aborder maintenant avec vous et qu'on travaille énormément dans nos formations périscolaires, on y fait allusion aussi dans le milieu scolaire, mais encore plus dans le milieu périscolaire. Et là, on va vous faire... allez, on y va.
Maman ne m'a pas dit si elle venait me chercher ce midi.
Oh, mais t'inquiète pas, mais c'est pas grave. Bon, écoute, si elle vient pas, tu mangeras là. Regardez. Comment elle se sent ? Mal, pas écoutée, pas accueillie. Vous pouvez vous exprimer, hein, allez-y. Hein. Comment elle se sent, à ton avis ? Inquiète, évidemment. Mais au lieu de lui dire, mais c'est pas grave, t'inquiète pas.
Maman ne m'a pas dit si elle venait me chercher ce midi.
Oh là là, mais j'ai l'impression que t'es inquiète de pas savoir si elle vient ou si elle vient pas. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai ouvert le dialogue. Je vais pouvoir aller un peu plus loin. Ben, dis donc, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, alors ?
Ben, je sais pas, moi.
Et attends, si on lui téléphonait ? Voilà. On a trouvé une solution. Alors, tous les exemples qu'on va vous donner, c'est plutôt des exemples de périscolaires, hein, puisque c'était un petit peu la demande qui nous avait été faite. Donc, voilà, premier exemple. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, là, maintenant ? Voilà. J'ai l'impression que tu es inquiète. J'ai nommé le sentiment. Vous l'aviez dit, elle est inquiète. Eh ben, au lieu de tourner autour du pot, dire, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, si elle est pas, si elle vient pas. Non, j'ai nommé le sentiment inquiète. Voilà. Allez, deuxième exemple.
Et là, j'existe. C'est-à-dire que moi, on me dit que j'ai le droit d'être inquiète. Ça veut dire que, ben, à l'intérieur de moi, mon référent, il me dit pas que faut pas que je ressente ce que je ressens. Il me dit pas que je suis une peureuse, je sais pas quoi. Non, il me dit juste, voilà.
Il reste 2 minutes. Allez, on vous en fait encore une autre. Oh là là, je connais personne au centre. J'ai pas envie d'y aller, pas envie, j'y vais pas.
Mais t'as pas besoin d'avoir peur. Tu verras, ça va bien se passer.
Oh, tu dis ça, t'es pas un devin d'abord. Ça va bien se passer. Moi, je le sais comment ça va se passer.
Alors, elle est comment ? Hein ? Voilà, et puis on lui dit, ben, t'as pas besoin d'avoir peur, n'éprouve pas ce que tu as envie, ce que tu éprouves. On n'a pas envie d'avoir peur, on n'a pas envie d'être inquiet, sauf que c'est ça, c'est là. Alors en plus, celui-là, il savait qu'il avait peur.
Allez, on vous la refait. Oh là là, je connais personne au centre, j'ai pas envie d'y aller, je veux pas.
Ah, ce serait bien si tu pouvais trouver des copains là-bas.
Attends, je crois que Jérémy, il va au foot, mais il va aussi au centre. Si ça se trouve, il y sera.
Ah oui, peut-être.
Ça veut dire j'ai trouvé ma solution. Le fait d'être accueilli dans mon émotion, eh bien, tac, ça va me faire changer de paradigme et ça va me faire changer. Et du coup, tac, ça y est, j'ai trouvé une solution. Et ça me rassure. Je me sens entendue, je me sens écoutée. Allez, un dernier et puis on arrête là.
Il n'a pas intérêt à continuer, Théo, parce que moi, je vais lui casser la figure.
Oh là là, mais t'es agressif ! Mais calme-toi ! Ça suffit ! Ça l'a pas calmé, voire même, ça a amplifié sa colère. Allez, recommence.
Oh, Théo, il n'a pas intérêt à continuer, parce que moi, je vais lui casser la figure.
Oh là là, mais t'as l'air drôlement en colère. Il s'est passé un truc avec Théo ?
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh ben, il m'a piqué mon cartable, et puis dedans, il y a eu mon devoir, et puis il me l'a déchiré. Eh ben, je suis pas content.
J'aurais jamais su ce qui s'était réellement passé. C'est-à-dire que, en lui disant, oh là là, mais t'es agressif, calme-toi, je ferme le dialogue. C'est-à-dire, il tourne les talons, il s'en va, il exprimera jamais ce qui s'était réellement passé. Et là, rien que le fait d'accueillir, comment ? Oui, d'accueillir, oh là là, ouais, t'as l'air drôlement en colère. Hop, ça lui permet d'ouvrir la porte et de dire réellement ce qui s'est passé avec Théo. Voilà. Donc pour nous, c'est ça, mettre, instaurer la paix à petits pas en Paris scolaire, c'est donner aux adultes les outils pour leur permettre d'accueillir les sentiments de l'enfant.
Voilà, hein, posture indispensable, mais on est tous dans le même champ. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que justement, tout ce tissage-là, ça fait la trame de la paix. Voilà.
Ok, merci.
Donc merci aux intervenants de cette première partie de la table ronde. Donc on va être maintenant plus sur des témoignages. Donc comment mettre en place un climat de paix dans un groupe? Donc ce temps de témoignage a été construit en donnant la parole à des personnes de différents milieux, voilà, de différentes positions, différentes institutions, qui vont pendant 5 minutes chacune. Développer ce qu'elle souhaite dire autour de ce thème, mettre en place vraiment un climat de paix dans un groupe. Donc on va peut-être je vais présenter peut-être les intervenants s'ils sont tous là. Je vais pas repérer tout le monde, on va voir. Donc Marie Lebrun, donc qui est ancienne enseignante, formatrice en éducation émotionnelle et gestion des conflits. Voilà, j'ai peut-être appelé tout le monde et puis donc c'est Marie qui démarrera. Ensuite Anne Gonnet, qui est donc enseignante en primaire et qui fait de la médiation par les pairs. Pascal Gaudet, qui est donc professeur de mathématiques au collège, qui va intervenir donc sur la formation donc à la communication non violente. Céline Bétourné qui est là, voilà, qui est donc responsable du service périscolaire de la ville de Louhan. Samuel Storlage, donc qui est donc éducateur et formateur en outils de la non-violence. Et puis on va terminer avec Pascal Delaporte, qui est donc directeur départemental de l'OCCE des Yvelines. Voilà, donc 5 minutes chacun, et donc tout ça va nous mener jusqu'à donc midi. Et donc après, ça sera donc le temps des questions. Donc je crois que c'est Annie qui va circuler autour de vous avec des petits papiers. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants ou aussi aux gens qui vont témoigner maintenant. Voilà, je vous passe la parole d'abord à Marie.
Merci.
Et donc pareil, je vous fais signe.
5 minutes, ça marche. D'accord. Donc bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais parler en tant qu'intervenante dans des classes. Je vais parler aussi vraiment au présent de ce que je suis en train de vivre dans une classe de CM1, CM2. Avec l'enseignante qui est présente aujourd'hui. Donc, j'interviens pour travailler sur l'apprentissage des outils de gestion de conflits avec le Théâtre Forum. Et pour vivre dans cet atelier un climat de paix, pour en tout cas essayer d'y contribuer petit à petit, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des rituels, pour des rituels à tenir, pour avoir le temps ensemble, pour nous rassurer. Donc le rituel de départ, c'est de prendre un temps de connexion avec soi en tant qu'adulte, connexion avec le groupe et que chaque enfant prenne ce temps-là. Alors ça peut prendre différentes formes, celle qu'on a choisie avec le grand groupe. On n'a pas beaucoup de temps, mais rien que quelques minutes, c'est déjà un beau cadeau. Donc on forme un cercle, on se tient la main et puis on prend le temps de respirer 3 fois. Et ensuite de s'envoyer par une pression de la main l'énergie de notre groupe. Et de prendre conscience qu'ensemble, on va partager un moment. On était dans la cour avant, moi j'étais dans le métro. On pouvait avoir de l'agitation, des soucis. Ok, on prend ce temps-là, 2-3 minutes. Et j'y tiens, même s'il y a des fois, j'ai envie d'aller beaucoup plus vite et de commencer la séance. Mais voilà, prenons ce temps. Et aussi un temps de clôture. Ok, à moins 10, systématiquement, on arrête. Même si on n'a pas terminé, même si on est en plein dans une scène de théâtre et que j'ai absolument envie de leur dire encore des choses. Il y a quelques séances, c'est un jeune qui, à moins 10, nous dit, il est moins 10 là, c'est le moment de faire le temps de clôture. Et je lui dis, ah, je suis frustrée, je suis super frustrée, mais tu as raison, on va arrêter. Et on se retrouve, tout le groupe, et on prend ce temps encore de clôturer qu'est-ce qu'on vient de vivre ensemble. Ça peut prendre différentes formes. La forme qu'on a choisie avec ce groupe, par rapport aux besoins du groupe, c'est encore lié à la respiration. Donc ce sont des temps voilà, de pleine conscience ou de sophrologie, ou voilà, avec un CD qui nous guide, et puis voilà, on se pose et on prend le temps de respirer ensemble. Voilà, ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être une météo intérieure, ou voilà. Mais en tout cas, d'avoir systématiquement ces deux temps, pour moi, c'est un vrai soutien aussi pour l'adulte. Parce que, voilà, je veux de lâcher un peu ma toute puissance, de vouloir absolument, voilà, tout mener, qu'il y ait la paix tout de suite, de transmettre plein de choses aujourd'hui. Non. J'ai conscience que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans le groupe si toutes les séances, on propose la même chose. Alors, je peux vous dire que ça fait rire, ça s'agite, ça marche pas, voilà, même là, bon. Ok, tant pis, je continue, j'explore. Et au bout de quelques séances, moi, je constate qu'il y a du calme. Finalement, ils sont ok de respirer. Voilà, on peut même le proposer à d'autres moments en rentrant à chaque fois qu'on rentre de la cour. Voilà, et puis je crois aussi que tout va pas venir de moi, que les enfants à l'intérieur de cette proposition, ils vont bouger, le groupe va bouger ensemble, les enfants vont s'en emparer. Voilà, et puis c'est bon, nickel. Bon ben voilà, je m'arrête là.
Alors bonjour, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Anne Gonnet et puis je suis enseignante depuis à peu près une douzaine d'années dans une classe de CM1, CM2 en Côte d'Or à Beaune. Et donc quand je suis sortie de ma formation à l'IUFM, j'avais dans mon cartable un gros bagage de théorie pédagogique. J'avais également tout un lexique, c'est-à-dire que je ne disais plus des élèves, mais je disais des apprenants. Je ne parlais pas non plus de stylo, mais d'outils scripteurs. Et je parlais plus de rédaction, mais de production d'écrit. Alors, je vous donne un peu le tableau. Ça faisait, chers apprenants, sortez votre outil scripteur, et puis on va faire de la production d'écrit. Donc, j'avais aussi dans ma mallette une fiche de préparation. Alors, pour les gens qui ne sont pas enseignants, c'est la fiche dans laquelle on marque vraiment minute par minute ce que l'on fait dans notre séquence d'apprentissage, temps par temps. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé, c'était de 8h30 à 9h moins le quart. Orthographe. Ensuite, un petit temps d'orthographe. Après 9h moins le quart, à 10h, bon, il fallait faire du vocabulaire. Et les élèves étaient là, mais maîtresse, on n'a pas fini. Mais tant pis, parce que de toute façon, là, c'est fini, c'est plus le temps de l'orthographe, il faut passer à autre chose. Donc finalement, mais j'avais l'impression de remplir ma mission, quoi, ma mission comme l'éducation nationale me confiait, puisque je faisais les matières et je respectais mon emploi du temps. Voilà. Seulement le problème, c'est que dans ma classe, c'était pas très souple, et en même temps, c'était un petit peu verdun, hein, c'est-à-dire toute proportion gardée. Donc, au lieu de mettre un cadre, je me suis vite aperçue que finalement, j'étais un petit peu dans un carcan, et ça se ressentait aussi par rapport aux élèves, à leur agressivité entre eux, et moi, avec un petit peu le rapport de force que je pouvais instaurer sans vraiment le vouloir. Et donc, ça n'a pas duré très longtemps comme ça, parce que je me suis vite aperçue que ça pouvait pas fonctionner. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place, finalement, dans ma classe, pour établir un climat un petit peu plus souple, et puis un climat plus serein. Alors, j'ai développé, il y aurait plein d'aspects à développer, mais j'ai quatre points, en fait. Donc, le premier point, ça paraît tout bête, mais c'est penser à la disposition géographique des élèves. Hein, c'est-à-dire que bon, si vous voulez avoir la paix, mais dans le mauvais sens du terme, dans votre classe, vous les mettez en rang d'oignons, comme ça, celui de derrière voit le dos de celui de devant, et puis du coup, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interaction. Mais on est allé c'est un petit peu obsolète comme disposition, mais il y a aussi la disposition par quatre ou en U, et encore mieux, c'est-à-dire leur proposer ce qu'ils souhaitent, ce que les élèves vraiment souhaitent pour la disposition de la classe. Et là, j'ai une petite anecdote à dire par rapport à ça, c'est que en fait, je leur avais proposer de choisir la disposition de classe, et puis bon, ils se mettent en groupe, ils réfléchissent, on met la mise en commun, puis il y a un groupe qui me dit, mais maîtresse, nous on trouve que votre bureau, il prend trop de place. Alors voyez, le bureau, symbole un petit peu du pouvoir, avec le stylo rouge. Donc je me suis dit, oui, finalement, pourquoi pas. Donc j'ai changé mon gros bureau avec une table d'élèves, ça ne veut pas dire qu'on est des potes, hein. Mais en même temps, ça m'a permis, moi, si vous voulez, de descendre de mon piédestal, et je me suis aperçue que si les enseignants pouvaient se dire qu'on est sur un piédestal, mais qu'il est dégonflable, et qu'il faut accepter aussi que le piédestal soit dégonflable. Moi, ça me paraît vraiment important, et puis qu'il soit aussi dégonflable avec les parents. Ah ben ça, c'est un autre sujet. Donc ça, c'est le premier point, l'aspect géographique. Le deuxième point, ça serait plutôt l'organisation du travail. Donc j'ai fait le choix, moi, de travailler sans les notes. Ça ne veut pas dire que les élèves ne sont pas évalués. Je travaille avec un système qui s'appelle PIDAPI, qui est un petit peu, on va dire, inspiré de la méthode Freinet. Donc pour vous expliquer un petit peu, ça fonctionne avec des ceintures. Donc comme au judo, et les élèves donc passent de la ceinture jaune, bon il y a la ceinture jaune, hein, vert bleu, enfin orange vert bleu, jusqu'à la ceinture noire. Et l'objectif vraiment de ce dispositif, c'est de susciter la coopération dans la classe et également donc que les élèves, enfin, il n'y a pas d'échec puisque chaque enfant va vraiment à son rythme, fait les entraînements, il ne passe l'évaluation que quand vraiment il est prêt. Quand il se sent prêt, en accord avec l'enseignant. Et donc, du coup, il y a aussi de la coopération, parce qu'il y a un grand tableau dans la classe où est répertorié un petit peu toutes les ceintures de tous les élèves dans les différentes matières. Et donc, quand on a un petit peu de difficulté en orthographe, parce qu'on n'est qu'à la ceinture jaune, et qu'on a un copain qui est à la ceinture verte, ben on peut aller lui demander de l'aide si l'enseignant n'est pas disponible. Et finalement, ce qui est aussi important, c'est que les élèves ont le choix. Ils travaillent sur plan de travail sur une quinzaine. Si pendant une semaine, ils veulent faire que des mathématiques, ils font que des mathématiques, puisqu'il faut respecter le plan de travail, il y a les mathématiques et le français. Voilà, donc dans le cadre, il y a quand même comme ça des libertés. Ils peuvent choisir vraiment ce qu'ils font, c'est tout. Choisissent, puis ça développe l'autonomie. Et ils sont aussi poussés par une motivation interne, beaucoup plus que par des stimuli externes, comme pourrait le faire la note, finalement. Le troisième point, ça serait prendre en compte les petits conflits du quotidien. Alors c'est vrai que souvent en tant qu'adulte on se dit bah oui mais c'est qu'une histoire de billes, mais en même temps, et ça va rejoindre un petit peu ce qui a été dit déjà, c'est que derrière il y a des besoins et que si ces besoins ne sont pas respectés ou entendus, il y a une insécurité et puis du coup bah, ça génère de la violence. Et on a trouvé, alors c'est les élèves qui ont trouvé une solution aussi pour, mis à part ce qu'on met en place avec Génération Médiateur, des petits temps de mime du conflit. Quand tout le monde est un petit peu plus apaisé entre deux élèves, ils vont mimer la situation telle qu'elle s'est passée, et puis ensuite ils vont mimer la situation telle qu'elle aurait pu se passer autrement, enfin avec une solution qui est autre. Et c'est vrai que ça permet aussi la distanciation, et puis souvent ça les fait rire aussi. Parce qu'ils se rendent compte que, bah oui, finalement, on a eu une réaction qui n'était pas forcément toujours celle escomptée. Il y a aussi un gros travail, enfin, le dernier point, ça serait mon dernier point, ça serait la communication non violente, donc que l'on peut mettre aussi en place dans la classe, donc avec le fait, le besoin, l'émotion, la demande. Ce que je me suis aperçue, et je me confronte vraiment à ce problème-là cette année, c'est la façon dont se parlent les élèves. Vraiment, ils ont une façon de se parler qui est très agressive. Et du coup, donc on essaye de mettre en place tout ça. Et j'ai vraiment aussi une petite chose. Enfin, je suis très touchée quand j'en parle parce que une année, donc on a travaillé sur la communication non violente. Et donc il y avait c'était une journée qui ressemblait pas aux autres. C'est-à-dire le premier matin, donc tout de suite à 8h30, un parent arrive, m'agresse. Après j'ai eu des mots avec ma direction. Ensuite avec les collègues, c'était pas très apaisé. Enfin il y a des journées comme ça où c'est un petit peu compliqué à gérer. Et la récréation, donc il y avait eu beaucoup de conflits. C'était le vendredi après-midi. Et du coup, je suis rentrée en classe et je me suis dit bon, ça commence à bien faire. Hein, bon, pas sur ce ton un petit peu plus fort. Ça fait 50 fois que je vous demande de vous taire, alors qu'on venait de rentrer, donc ça faisait déjà pas 50 fois que je leur demandais. Donc voilà, j'en ai assez. Et j'ai une petite fille au fond de la classe qui lève la main et qui me dit maîtresse, quand j'entends crier, je me sens en insécurité parce que j'ai besoin de calme dans la classe pour travailler. Voilà. Et donc du coup. C'est vrai, oui, j'en suis encore. Voilà, bon, pour conclure, en fait, finalement, on ne s'abaisse pas quand on est avec les élèves. C'est un petit peu la phrase de Korczak, on s'élève et ça nous fait vraiment travailler sur nous-mêmes aussi. Voilà.
Bonjour à tous. Après avoir écouté tous les intervenants, je me demande qu'est-ce que je vais vous raconter ? Alors, je suis professeur de mathématiques au collège Victor Hugo à Sarcelles, dans le Val d'Oise, et j'ai mis en place, à mon arrivée il y a 3 ans, l'action de médiation par les pairs, par la communication non violente. J'ai envie de dire, c'est une excuse, parce que premièrement, nous avons tous la capacité de médiation, c'est simplement qu'on n'utilise pas tous de la même manière et tout le temps. Donc l'idée, c'était vraiment de permettre aux élèves de développer cette capacité et pour certains de se mettre au service de l'établissement pour aider leurs camarades à gérer des conflits. Bien sûr, ce que ça a produit, c'est que les élèves l'utilisent aussi à d'autres moments que dans la classe. Ils l'utilisent aussi à l'extérieur de l'établissement. Pour ma part, j'ai affiché dans ma salle les sentiments et les besoins. Et quand un élève est un peu tendu, je le regarde et je demande « Comment tu te sens ?»« Normal !» Alors, je le regarde, je capte son regard et je l'emmène vers le mur. On regarde ensemble les sentiments et je lui dis « Comment tu te sens ?» Et en fait, il se centre, il s'écoute, mais en réalité, c'est toute la classe qui se demande comment il se sent. Et ça permet vraiment de redescendre. Mieux que ça, quand je suis en colère et que j'arrive, les élèves me disent « Monsieur, vous sentez comment ?» Et là, je les regarde en disant « Je ne vais pas pouvoir garder ma colère !» Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, et j'ai aimé beaucoup ce que j'ai entendu, c'est cette relation d'équivalence. Certes, je suis professeur, je préfère dire « Je suis un accompagnant vers leur chemin sur l'acquisition du savoir », parce qu'en vrai, je ne prépare pas mes cours. J'ai une conscience assez claire du programme. Et en revanche, je ne sais pas ce dont mes élèves ont besoin en arrivant en classe. Donc j'ai 3 quatrièmes, j'ai quand même des variations sur chaque cours selon la classe. Parce que certains ont besoin de rappel, d'autres pas, etc. Il m'arrive aussi de faire des médiations en classe. Parce qu'à travailler climat scolaire, à permettre vraiment une réelle possibilité d'échanger, de communiquer et de poser les choses, ils sont plus à l'aise avec moi. Et donc c'est là que les choses sortent. Donc pour moi, ce n'est pas forcément d'empêcher la violence. C'est de permettre à chacun d'être sécurisé sur le fait qu'il peut exprimer son besoin profond différemment. Et au final, les choses s'apaisent. S'apaisent aussi à l'extérieur et entre eux. Et pour moi, c'est vraiment important parce qu'un élève qui est en colère ou qui me dit quelque chose qui ne me convient pas a priori, je vais le laisser s'exprimer, je vais l'accompagner pour reformuler. Et ensuite, on verra pour mon besoin si je suis assez disponible pour ça, pour lui dire qu'il aurait pu le formuler différemment. Et des fois, moi-même, je ne suis pas dans cet état et c'est eux qui me le disent. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, intelligence émotionnelle, intelligence collective. Et pour l'établissement, j'ai envie de dire, la posture de l'adulte, c'est vrai que le pouvoir sûr, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, même si je n'avais pas de mots pour le poser dans un premier temps. C'est vraiment la question du lead, mener. On peut effectivement garder son caractère d'impulser, à être enthousiaste pour faire des choses, sans pour autant leur imposer des choses. Très souvent, au bout de plusieurs semaines, quand je n'ai pas trouvé de solution pour fonctionner, je leur dis, écoutez, aujourd'hui, on ne fait pas cours. Qu'est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? J'ai essayé tout ce que j'ai pu créer tout seul. Tout seul pour 25, ça ne marche pas. Aidez-moi. À travers un sac de paroles, on fait émerger des propositions. Il y a des choses, des fois, très simples auxquelles je ne pense plus au bout de 10 ans. Et oui, et je l'ai mis en place et ça marche bien. Un exemple, choisir la date de l'évaluation. Tout simplement. Certains préfèrent une date proche parce que le fait que la formation vient d'être traitée leur permet de s'en souvenir tout de suite. Pour d'autres, il leur faut du temps pour avoir le temps de réviser. Ok. On fait une évaluation non notée le lendemain et la définitive la semaine d'après. Ainsi, les deux sont satisfaits de leur demande. Donc il y a vraiment ce pouvoir-là qu'ils ont de créativité, de proposition et les accompagner vers leur chemin vers le savoir, parce qu'à priori, il y a au moins 84 profils et pas la méthode de l'enseignant, permet vraiment de les associer et dans l'autorité, et dans la responsabilité, parce que ce n'est pas mon cours, c'est le nôtre. Et comme j'en dis à chaque fois, qu'on avance ou pas, je suis payé pareil. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour, donc je suis Céline Bétourné, responsable du service périscolaire de la ville de Louhans-Château-Renault. On a oublié Château-Renault, très important. On vient de fusionner depuis cette année. Il ne faut plus oublier Château-Renault. Je vais vous redonner juste rapidement le contexte dans lequel je travaille. Donc, je travaille pour une commune qui est la commune centre, dans une zone rurale, la Bresse. Donc, les petits poulets blancs qu'on voit se promener, c'est chez moi. Moi, j'ai plein de petits poulets aussi dans mes cours d'école, puisqu'on a 2 groupes scolaires. On accueille à peu près 470 enfants cette année, répartis en maternelle et en élémentaire, et on a une école privée. Je suis responsable d'un service qui est composé de 17 agents, qui comprend les ATSEM et les animateurs qui interviennent sur les temps périscolaires, donc le matin, le midi et le soir. Alors effectivement, j'ai eu la chance de bénéficier d'un projet qui a été impulsé par l'association des parents d'élèves de l'école Vial-Vincent, qui est l'école un peu centre de Louhan, qui avait constaté une recrudescence de violences physiques et verbales et dont les parents avaient subi, leurs enfants avaient subi des choses, et ils se sont réunis, essayer de réfléchir à comment on pouvait faire pour faire autrement. Pas forcément de la répression, mais peut-être de la prévention ou agir d'une autre façon. Donc c'est les parents d'élèves qui ont été porteurs de ce projet. On a réussi à obtenir des financements par le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance. Et grâce à ce fonds interministériel, on a pu monter ce projet en partenariat avec l'APE, donc la mairie et les enseignants. L'idée, c'était en fait que les parents d'élèves qui étaient volontaires puissent recevoir la formation donnée par Génération Médiateur, pardon. Donc par le sous forme des ateliers de parents qui sont issus de Faber et Maslisch. Les animateurs périscolaires ont reçu la même formation. Donc ont eu les mêmes outils que les parents, et les enseignants, par contre, en revanche, ont travaillé sur la médiation des pairs. Ça a été vraiment nouveau et important pour cette école, parce que ça a donné une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas du tout, et en plus, c'est tombé au moment où on créait le service périscolaire. C'est-à-dire qu'avant, ce service était géré par une association qui n'a pas pu mener à bien son action jusqu'au bout, donc la mairie a décidé de reprendre à sa charge ce service. Ça a donné une dynamique à l'équipe, ça a permis à des ADSEM qui se sont retrouvés avec une référente comme ça, qui a débarqué un jour au mois de mars 2013, de se dire, oh là là, qu'est-ce qu'on va attendre de nous? C'est quoi de l'animation? Moi, j'en ai jamais fait. Moi, on me demande juste d'aller emmener les enfants faire pipi, de les habiller, et là, on va me demander autre chose. Comment je vais faire? Voilà. Donc tout ça, ça a été porteur de nouveautés. Pour certaines, c'était très très difficile parce que c'était à 15 000 lieues de leur manière de fonctionner. Et puis pour l'équipe en général, ça a donné vraiment une cohésion de groupe, ça a donné une dynamique. Ça a passé surtout sur une séance avec des jeux coopération qui ont vraiment... Ça a changé quoi. Il y a eu... un basculement pour tout le monde, une prise de conscience que oui, on pouvait faire autrement, oui, on pouvait travailler d'une autre façon, on pouvait être bienveillant déjà entre nous au travail, et puis du coup apporter une autre ambiance au sein des accueils auprès des enfants. Comment ça se traduit? Je prends mes petites fiches parce que j'ai peur d'oublier. Comment ça se traduit sur le terrain? Ça se traduit au quotidien, sans arrêt, de se donner les informations quand elles viennent du service périscolaire aux enseignants, parce que nous, les parents, c'est nous qui les voyons le matin. Les enseignants ne voient pas forcément les enfants. On a deux lignes de bus par école, donc on a aussi des enfants qui prennent le bus, qui sont en maternelle. C'est l'ADSEM qui les accompagne dans le bus, et c'est elle qui retransmet les informations aux enseignants. Donc on a ce moment de passage qui est très important, qu'on a calculé dans le temps de travail des agents. Ça se transmet aussi par un conseil des élèves qui a été créé. Donc chaque classe a deux représentants. Et au sein de ce conseil des élèves, on prend des décisions d'organisation de la vie de l'école. Et ce sont les enfants qui déterminent les règles de la vie de l'école. On avait, par exemple, énormément de violence sur les temps de récréation, et surtout sur le temps du midi. À la cantine, c'était du grand n'importe quoi. Ils savaient pas se parler, ils se tapaient sans arrêt, ils s'insultaient, il y avait des nions partout, enfin bref. Et donc avec eux, on a réfléchi, on a travaillé de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit différent. Et donc on s'est rendu compte que les enfants, ils avaient plein d'idées. Puis des fois, ils étaient hyper pertinents dans leurs propos. Ils se rendaient compte que ben, entre eux, c'était pas super. Et donc, ils ont proposé des zones de jeu, on a acheté des jeux. Et puis, à partir de ce moment-là où on l'a mis en place, on a diminué de moitié les conflits. Après, on a vraiment géré des gros conflits qui souvent sont issus du temps d'école, du temps de maison. C'est-à-dire que ça se passe le soir, une fois qu'on est à la maison ou quand on joue dans le quartier. Et c'est ces conflits souvent qui reviennent à l'école qu'on est un peu obligé de traiter. Mais les petits conflits d'école ont pratiquement disparu. Il y a les zones de jeu pour les billes, les zones pour les voitures, les ballons. C'est organisé, il y a des plannings, on s'inscrit, etc. Ce qu'on a mis en place aussi à la rentrée, c'est que il y avait souvent des mots qui étaient donnés par les enseignants parce que l'enfant s'était mal comporté, etc. Et donc nous, on a cherché aussi des fois à avoir un besoin de communiquer avec les familles parce qu'on n'a que les cahiers. Donc les enseignants ont accepté qu'on communique dans le cahier de liaison de l'école. Ça, c'est un grand pas en avant pour nous. C'est magique. Et donc, pour ce faire, on a des coupons de couleurs. Donc, nous, on est un coupon rose. C'est nous qui communiquons sous forme de couleur rose aux familles. Et comme ça, le animateur référent refait le retour de ce coupon par le biais du cahier de liaison. Et puis, quand on a vraiment un conflit très, très important permet plus du tout d'être bien à l'école. Ça nous est arrivé cette année. Pour la première fois, on a convoqué les enseignants, le service périscolaire et les familles qui vivaient ce conflit. On s'est mis autour d'une table et puis on a parlé. On a parlé, on a essayé de comprendre pourquoi ça se passait comme ça dans le bus, pourquoi il y avait de la violence verbale, pourquoi on n'arrivait plus à s'entendre, qu'on était obligé de se mettre un à l'autre bout du bus pour pouvoir rentrer à la maison. Ça a apaisé les choses. Ça permet effectivement le dialogue, pouvoir un peu faire que tout le monde se pose, s'écoute. Les enseignants ont pu s'exprimer, nous avons pu en tant que service nous exprimer, et les familles également. Ça n'a pas encore complètement tout résolu, mais au moins ça a ouvert des portes. Et ça par contre, ça demande énormément de temps, énormément d'investissement. Parfois les journées sont déjà bien longues. Je finis. Parfois, les journées sont bien longues. En tout cas, on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est une chose. Voilà.
Donc, je me présente. Donc, Samuel Stollars. Je suis animateur, formateur en indépendant. Donc, mon parcours, au départ, je suis quand même un militant un peu écolo, droits de l'homme, Amnesty International, ATD Carmonde, etc. Et j'ai travaillé à l'âge de 20 ans dans un centre d'accueil de classe découverte. Et en classe nature, avec une école, j'étais en grosse difficulté pour montrer les petites plantes, les petites bêtes qui tout de suite étaient massacrées par les élèves. Et suite à ça, grâce à ces élèves, je suis parti dans des formations en relaxation pour enfants et adolescents. Et je me suis rendu compte que le premier que je devais relaxer, c'était moi. Et par la suite, j'ai mis en place, donc j'ai découvert aussi le monde de la thérapie, du travail sur soi, de la communication, etc. Et j'ai mis en place des classes sur les droits de l'enfant, la non-violence, la résolution de conflits. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais encore dans mon côté désir sur peace and love, machin, aimez-vous les uns les autres, etc. Et j'étais pas satisfait. Et du coup, je suis revenu à ce que je faisais au départ, des classes nature, des classes préhistoire, mais où, moi, mon relationnel a complètement changé. Je favorise des balades de nuit, écouter des moments de silence, le feu de camp qui s'allume le soir, écouter les chants d'oiseaux, marcher dans la boue, se salir. Donc ça, j'ai la chance de pouvoir le faire quand j'accueille des groupes en classe découverte, en pension complète, en Haute-Marne, mais aussi j'ai mis en place des classes, des semaines classes découvertes sans cartable. Donc c'est là j'interviens à l'école, pas de cartable, et en fonction des projets des enseignants, on va faire une classe théâtre, une classe préhistoire, une classe nature. Et quand c'est des classes nature, je travaille beaucoup dans le 77, Chessy, Bussy-Saint-Georges. C'est apprendre aux élèves à s'émerveiller devant la petite fleur qui pousse tout près du RER, le petit oiseau qui chante à tel endroit. Et en fait, dans tout le travail du groupe, il y a quelque chose qui se passe. Et bien sûr, j'utilise après les outils que j'ai eus, par exemple, avec des élèves d'ITEP qui sont très vite dans des agressions verbales. On est autour du feu, on a traversé un morceau de forêt, et puis tout d'un coup, on se met à parler des comportements de violence, etc. Et puis hop, on repart faire autre chose. Et j'essaye aussi au maximum de ramener les élèves dans de la créativité, dans de la matière, mais avec pas grand chose. Créer des décors avec des bouts de carton, refaire des choses simples. Faire des cabanes. Alors forcément, en faisant des cabanes, on aura la guerre des boutons. Parce que ça, c'est clair, dès qu'il y a plusieurs cabanes, il y a des conflits. Mais justement, c'est un bon outil pour travailler. Et puis on trouve des moyens, voilà. J'essaye de favoriser tout ça. Et on parlait des peurs, et bien comment approcher la nuit et marcher tout seul dans la forêt la nuit. À partir de 6 ans, les élèves de CP, j'utilise le conte, on est au milieu des bois, et à un moment donné, chaque élève va marcher tout seul. Alors souvent, la personne qui a le plus la trouille, c'est l'enseignant. Parce que c'est l'enseignant qui ferme la marche. Mais alors, je reprenais les outils que vous preniez. Avant, je disais à un enfant, j'ai peur. Je lui disais, mais non, t'as pas à avoir peur. Je connais la forêt par cœur. Bah, maintenant, j'ai changé ma relation. Bah, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu imagines? Et effectivement, il se passe quelque chose. Donc voilà, moi, j'essaye de faire vivre des choses simples à des groupes classes. Donc soit sur des semaines sans cartable, soit des semaines en pension complète à la maison de Courcelles, dans le sud de la Haute-Marne. Et puis aussi, bah, j'interviens sur des formations d'animateurs, de directeurs d'école, d'enseignants, etc., pour parler un peu de mon expérience. Donc voilà, c'est au bon niveau du temps. Et bien voilà, je vous remercie de votre écoute.
Il m'a donné 2 minutes ou non? Alors, Pascal Delaporte, donc je suis responsable de l'OCCE des Yvelines. L'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. Alors, quand on passe le dernier, l'avantage ou l'inconvénient, c'est que tout a été dit. Donc, je me retrouve complètement dans tout ce qui a été dit ce matin. L'estime de soi, la communication non violente, les outils NVA, je travaille avec tous les jours. Enfin, voilà, tout ça, c'est nous. Donc, j'avais noté tout ce que faisait la force de l'OCCE. Puis, au fur et à mesure de la matinée, j'ai barré en disant ça, c'est fait. Donc, ce qui fait notre force, en fait, à l'OCCE, peut-être, la différence, c'est qu'on est présent, l'OCCE est présent dans 50 000 coopératives sur tout le territoire français et territoire d'outre-mer. Donc, on est présent au quotidien par les élèves et par les enseignants dans toutes les écoles de France, de la maternelle au secondaire, au lycée, voire plus. Donc, à partir de là, évidemment, on intervient sur tous les champs qui ont été cités et on peut toucher ou mettre en œuvre nos valeurs. Alors, j'avais noté 3 choses importantes, les recours à des valeurs et des structures et des pratiques spécifiques, la coopération, on parle coopération à longueur de journée, mettre en œuvre une éducation active à la responsabilité à travers le conseil d'enfants, on vient d'en parler, les projets, les contrats, PIDAPI, évidemment, on en parle tout le temps, etc. Changer le statut de l'élève et de l'enseignant, parler de l'estime de soi, l'estime des autres, l'enseignant, alors c'est Anne, je crois, tout à l'heure, qui a très bien décrit ça, et modifier les relations dans les apprentissages et le climat de la classe. Voilà, là, on est dans l'autonomie, le respect, la solidarité, des choses comme ça. Alors, l'OCCE, on développe des outils, on a une publication, une revue nationale, animation et éducation, je suis en train de chercher, qui est très très riche. On a des universités d'été, on fait de la formation pour les enseignants, on intervient dans les classes, on propose des actions et des projets. Donc, si je devais résumer, je dirais que moi, mon travail, en tant qu'animateur départemental de l'OCCE, c'est d'aller à la rencontre des enseignants pour leur faciliter le passage à la coopération, leur souffler des idées, leur souffler des actions, et essayer de mettre en œuvre le plus d'actions possibles sur le territoire des Yvelines, en tout cas. Alors, la synthèse de tout ça, en fait, je dirais, tout ce que vous avez dit ce matin, c'est l'agenda coopératif. Depuis 2006, l'OCCE, on a mis en place, on développe et on propose à nos enseignants un agenda coopératif de la maternelle cycle 2 et cycle 3 qui, à partir des réflexions et des outils, des travaux de Jim Oden, Christian Staquet, des choses comme ça, nous permettent de travailler la construction de l'estime de soi, par travers des questionnements sur les sentiments, tout ce qu'on a évoqué ce matin, le vivre ensemble, le respect, l'autonomie, la solidarité, travailler ensemble et les habiletés coopératives. Voilà. C'est tout. Et je présenterai ça cet après-midi en atelier, si vous voulez.
Effectivement, hein, donc cet après-midi donc, va se poursuivre par des ateliers animés par... vous m'entendez là? Ça marche? Effectivement, donc voilà, c'est mieux. Effectivement, donc cet après-midi va se poursuivre par des ateliers, donc on pourra continuer à travailler sur les outils. Donc maintenant, il y a un certain nombre de questions. Voilà, que je vais un petit peu lister, et puis voilà, pourront répondre aussi bien les gens qui sont ici à la table ronde que les personnes qui ont aussi témoigné. Donc il y a un certain nombre de questions un peu institutionnelles, d'autres un peu sur les concepts, et puis sur peut-être des outils très, très pratiques. Donc je vais commencer. Alors, des propositions d'outils. Quels sont les outils pour apporter le calme dans un groupe où il y a trop bruyant? Donc, je ne sais pas, on peut... qui c'est qui veut... Oui.
J'ai bien une partie de la réponse. calme, trop bruyant, pour qui? C'est-à-dire que si moi je suis dans un état intérieur où mon seuil de tolérance est nettement inférieur au vivant de la classe, c'est qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc, c'est vraiment quelque chose à poser. On peut leur poser clairement. Quand je vous entends faire autant de bruit, je me sens vraiment fatigué parce que j'ai besoin de coopération et de paix. Qu'est-ce que vous me proposez? Et très souvent, ils ont des idées. Ils peuvent s'auto-gérer, comme ils peuvent dire « Oui, mais monsieur, là, quand on fait ça, on est obligé de communiquer pour travailler. Donc, ok, donc rapprochez-vous, changez les tables. » Voilà, on peut vraiment travailler ensemble pour émettre des solutions. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où moi, j'étais, j'avoue, fatigué. J'arrive, eux, ils sont déjà... Dans mes classes, on tourne entre 23 et 26. 23 et 26, donc à Sarcelles, on est classé REP. Et surtout, quand je les ai après la récréation, dans le rang, dans le couloir, en se rangeant devant la salle et en rentrant dans la salle, c'est encore la récréation. Donc, pour un peu que je ne sois pas, moi, disposé à accueillir ça, il y a vraiment ce décalage entre « je vais rentrer tout de suite dans l'apprentissage » et me mettre au travail, et eh ben, eux, ils sont contents de se retrouver, il y a de la cohésion dans le groupe, c'est génial. En plus, dans ma classe, j'ai fait les travaux de coopération dès le début, avec des jeux de présentation, etc., pour créer une cohésion et pouvoir travailler ensemble. Donc forcément, quand c'est pas au service du travail, ça fait l'effet inverse. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas de solution, mais c'est vrai, moi, commencer à me centrer, à me dire profondément qu'est-ce que ça gêne pour moi, le bruit, permet vraiment d'en faire quelque chose qui fait avancer tout le monde, et les élèves y compris, et surtout moi. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre?
Oui, en termes de proposition, c'est aussi une partie du truc, parce que moi, je suis des gens qui, en classe, ne supportent pas du tout le bruit. Mais c'est surtout aussi, c'est que Marie parlait du rituel, et je pense qu'effectivement, passer de la récréation à la classe, eh bien, c'est passer du jeu à la concentration. Et la concentration, eh bien, moi, je suis une grande adepte de la respiration ventrale, de ce que disait Marie tout à l'heure, pourquoi pas respirer. Ces temps-là sont, ils ont double bénéfice, parce que on parlait d'autonomie, on parlait de responsabilité, on parlait d'émotion. La gestion des émotions, ça passe aussi par la reconnaissance de son émotion et la capacité à se recentrer sur soi. Et je trouve que la respiration ventrale, tous les exercices de souffle, alors je vais dire deux gros mots, yoga et méditation, tant pis, je les ai dit, ça y est, c'est fini, sont fabuleux pour se centrer sur soi, sur découvrir son émotion. Et les rituels d'entrée en classe, je trouve, comme les rituels d'entrée dans un théâtre forum, je pense qu'ils sont indispensables.
Ça marche là. Et, du coup, moi, je me suis basée, sur deux CD, deux livres. Il y en a un qui vient de sortir, Vivre la pleine conscience dans sa classe. Avec voilà plein de pistes, plein de CD pour nous aider si soi-même on n'est pas adepte. En même temps, dedans, il est bien posé de expérimenter seulement ce que vous-même vous avez expérimenté. Donc osez l'expérimenter chez vous avec vos enfants ou ailleurs, et ensuite vivez-le avec vos élèves. Mais il y a vraiment de superbes livres soutien pour ça. Et puis il y a je viens de découvrir un site, Les Enseignants Heureux. Et le samedi 13 décembre, il y a, alors je vais essayer entre midi et deux de retrouver, de le mettre sur la table. Il y a justement bref, je vais vous retrouver. Et on peut venir le samedi 13 décembre pratiquer ensemble des exercices de pleine conscience et de les partager pour ensuite aller les faire vivre dans sa classe. Donc je retrouve et je l'écris quelque part en gros tout à l'heure.
Merci. Alors, peut-être une autre question. Est-il plus facile d'intervenir en établissement privé Et y a-t-il des témoignages à ce sujet ?